18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dimanche très particulier. Les élections européennes programmées le même jour que la fête des mères. Je suis allé voter ce matin et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à ma maman, à moi. Au menu, de l'info, du sport, les médias et une grande soirée spéciale Europe à partir de 19h30 avec nos envoyés spéciaux dans les capitales européennes, également au QG des candidats. Et je peux déjà vous annoncer une grosse, grosse surprise. 43,29%, c'est le taux de participation à 17h. Ce chiffre provisoire est déjà supérieur à la participation globale aux dernières européennes il y a 5 ans. Nous serons également avec Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1 et Édouard Le Serre de l'Institut BVA. Et aussi des dossiers. Fête des mères ou pas, il manque aujourd'hui entre 200 et 300 000 places en crèche. Jeudi, puéricultrices et assistantes maternelles sont mobilisées à l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne. Les parents ont dû encore faire face à des grèves, parfois à des crèches fermées. Comment s'en sortir ? Réponse avec Anaïs Lunet, cofondatrice de Nova Vita. Mais puis chaque année, les dictionnaires Petit Robert et le Petit Larousse illustré font éclore des centaines de nouveaux mots. Oclocratie, scroller, ça veut dire quoi ? Et biomolécules et serrano. Pourquoi ces mots entrent seulement dans le dico ? Réponse avec Édouard Trouillet, il est lexicographe et il est passionnant. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, prélude à la grande soirée 20h-23h avec Raphaël Duchemin et Sébastien Krebs. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à réagir à l'actu de ce dimanche 26 mai avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 18h, soyez les bienvenus sur Europe 1. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
43,29%, c'est donc la participation, vous le disiez, pour les européennes à 17h en France, 8 points de plus qu'il y a 5 ans et surtout un taux supérieur à la participation finale en 2014. Nous serons au ministère de l'Intérieur. Nous verrons si la mobilisation est forte aussi à Paris et à Lyon, où la sécurité a été renforcée 2 jours après l'explosion d'un colis piégé. Les instituts de sondage annoncent déjà des estimations entre 52 et 54% pour la participation finale. Une forte mobilisation qui n'était pas forcément attendue. Nous irons aussi à Bruxelles, car on vote dans l'ensemble des pays de l'Union. Et dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne, la Roumanie ou encore la Hongrie, la participation est là aussi en hausse.
Europe 1. 43,29%, c'est donc le taux de participation à 17h pour ces élections européennes.
On le disait, un taux de participation en nette hausse par rapport au dernier scrutin il y a 5 ans, 8 points de plus. On rejoint au ministère de l'Intérieur Salomé Legrand. Et donc Salomé, la participation déjà en progression à la mi-journée par rapport à 2014 se confirme et même s'amplifie.
Et oui, pour atteindre ce taux de participation historique à plein d'égards, on est donc, vous l'avez dit, 8 points au-dessus de la participation d'il y a 5 ans et on a déjà dépassé ce taux final de participation de 2014. À 20h, il était de 42,4%. On est déjà quasiment à 1 point de plus. On a également dépassé la participation à 17h du premier tour des dernières législatives de 2017. Et si on reste sur les scrutins européens, on dépasse tous les taux de participation à 17h depuis le milieu des années 90. C'est donc un bond de la participation. Il est particulièrement notable, par exemple, dans l'Ain, quasiment plus 19 points, et dans le Pas-de-Calais, plus 14 points par rapport aux dernières élections européennes.
Salomé Legrand, en direct du ministère de l'Intérieur. Un bond de la participation, nous dit Salomé Legrand. Nous sommes avec Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. On peut dire, Jean-Rémy, que cette forte mobilisation des Français qui s'annonce est une surprise.
Oui, Fabienne, elle était inattendue car les projections ces derniers jours laissaient penser que les Français allaient massivement bouder les urnes. Historiquement, les élections européennes, elles mobilisent peu. Et la campagne ayant débuté très tard, cette hypothèse semblait crédible. Mais les faits sont là. Plus de 43% d'électeurs ont déjà voté à 17h. Une forte progression, nous expliquait à l'instant Salomé Legrand. Et un symbole important, effectivement, on est au-dessus des taux de participation des dernières législatives à la même heure. Et si, effectivement, on dépassait ce soir les 50% de votants sur la journée, ce serait un signal politique très fort. Rappelons que nous vivons aujourd'hui le premier scrutin national, certes européen, mais premier scrutin national 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et plus la participation sera forte, plus nous aurons une photographie solide, fine du paysage politique français en 2019. Il est trop tôt évidemment pour en tirer des conclusions politiques, mais je peux vous dire que dans les partis comme à l'Élysée, on analyse la mobilisation pour tenter d'anticiper les résultats. et les conséquences politiques qu'il faudra peut-être en tirer.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, et selon les estimations des instituts de sondage, la participation finale pourrait atteindre entre 52,2% pour Harris Interactive et 54% pour IFOP Fiducial.
Direction maintenant la mairie du 13e arrondissement de Paris.
Encore 2 heures pour voter dans le bureau où vous vous trouvez. Chanel Petit, est-ce qu'il y a du monde autour de vous ?
Eh bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde ici depuis ce matin. Le flux d'électeurs est quasiment permanent. On se marche même un petit peu dessus en cette fin d'après-midi dans cette grande salle de mariage où 60% des inscrits ont déjà voté. Valentine, par exemple, il y a quelques minutes avec un énorme sourire.
Je me suis réveillée ce matin, j'étais très contente de pouvoir voter. Sauf que mon copain ici présent n'avait pas l'intention de voter ce matin. Donc ma mission du jour, c'était de le faire voter. Et il y a eu des oui, ensuite des non, parce qu'il n'avait pas les clés pour aller chercher sa carte électorale. Et maintenant, il est allé voter. Et ça y est, j'ai des photos à l'appui que je vais pouvoir envoyer à mes amis. Il a bien voté, voilà. Ah, je suis très fière de lui. Ah oui, parce que c'est très important de voter.
Son petit ami Abdel était donc un peu moins enthousiaste à l'idée qu'elle d'aller voter, désabusé du monde politique.
Ce qu'on nous dit et ce qu'on fait, c'est très très différent. Donc pour moi, c'était voter ou pas voter, c'était la même chose. Aujourd'hui, j'ai voté juste pour éviter certains candidats, on va dire. Oui, au final, ouais, non, c'est vrai, je suis vraiment content, mais bah, je suis soulagé, on va dire. Comme ça, je peux dormir tranquillement ce soir, pas dire, ouais, j'ai pas voté, quelqu'un est passé, je voulais pas qu'il passe, peut-être j'aurais peut-être changé les choses, mais non, en vrai, je suis content.
Et beaucoup de personnes continuent de s'engouffrer dans cette mairie du 13e arrondissement sous mes yeux. À Paris, comme dans la plupart des grandes villes, les électeurs pourront voter jusqu'à 20h.
Chanel Petit dans le 13e arrondissement, donc à Paris, à Lyon, après l'explosion d'un colis piégé alors qu'un suspect est toujours recherché. Les mesures de sécurité avaient été renforcées. Pour autant, Jean-Gabriel Bourgeois, cela n'a pas dissuadé les habitants du quartier où l'explosion a eu lieu de se déplacer pour aller voter.
Effectivement, à l'entrée du bureau de vote 205, école maternelle Michelet, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'attaque, un vigile contrôle les sacs.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bien sûr.
Merci d'être là.
Des patrouilles de police passent régulièrement dans la rue, un dispositif de sécurité renforcé pour que le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité. L'explosion du colis piégé vendredi fait évidemment partie des discussions à la sortie de l'isoloir. Denise et Jean-Jacques, un couple de retraités du quartier.
C'était impressionnant, nous, le bruit. Ça reste angoissant, mais après on n'est pas plus inquiet.
On est bien protégé et on vient voter quand même, il n'y a pas de raison.
On a vu l'armée en plus, des jeunes, des tout jeunes, on se dit ces enfants. Non, on ne peut pas rester cloîtré non plus chez soi.
Pas question de céder à la peur, on s'est habitué à vivre avec ce genre d'événement, même si cela n'est jamais arrivé dans la paisible ville de Lyon, expliquent Michel et Hélène.
Lyon, c'est quand même pas une ville où il y a eu beaucoup de problèmes, c'est une ville plutôt calme, donc alors vraiment on n'a pas la moindre inquiétude. D'ailleurs on vit en vélo. Oui.
Malheureusement on s'habitue à ça.
Et preuve que la page est déjà tournée ici, les Lyonnais se sont mobilisés pour cette élection. Plus qu'au niveau national, 48% des inscrits sont déjà venus voter à 17h.
Jean-Gabriel Bourgeois, Lyon pour Europe 1. Alors on ne vote pas qu'en France pour ces européennes et on part à Bruxelles rejoindre notre correspondante Isabelle Horry. Grande soirée électorale au Parlement européen. Où vous vous trouvez Isabelle ? Ce sont en tout 400 millions d'Européens qui ont commencé à voter depuis plusieurs jours. Et premier fait notable, Isabelle, comme en France, vous me l'avez dit, la participation est en hausse dans plusieurs pays européens.
Oui, effectivement, à la mi-journée, elle battait des records, hein, du nord au sud, d'est en ouest. Alors en Espagne, en Allemagne, en Suède, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Croatie. Alors attention, il va falloir attendre la fermeture des bureaux de vote pour les chiffres définitifs. Mais il semble qu'il y ait un frémissement à l'échelle du continent. Pour rappel, il y a 5 ans, 42,61% seulement des Européens s'étaient déplacés pour aller voter. Alors vous le savez, nous n'aurons pas ici de résultat officiel avant 23h, heure à laquelle les derniers bureaux de vote ferme en Italie, mais les sondages sortis des urnes, eux, sont autorisés et ils viennent de tomber il y a quelques instants pour l'Allemagne. Les conservateurs de la CDU d'Angela Merkel arrivent en tête à 27,5%, mais ce sont les Verts qui feraient sensation en Allemagne. Ils seraient le deuxième parti à plus de 20% devant les sociaux-démocrates. L'extrême droite alliée de Marine Le Pen serait autour de 10%. En Autriche aussi, on a les chiffres, les conservateurs au pouvoir seraient là aussi en tête. Et l'extrême droite, secouée par un scandale la semaine dernière, aurait perdu quelques plumes, mais serait quand même entre 15 et 20%. En Grèce, la gauche du Premier ministre Alexis Tsipras serait elle aussi doublée par la droite conservatrice. Voilà, ce sont les premiers chiffres qui viennent de tomber il y a quelques minutes.
Isabelle Horry, en direct du Parlement européen à Bruxelles.
Et Isabelle Horry, qu'on retrouvera tout au long de la soirée, car toute la rédaction d'Europe 1 est mobilisée pour vous faire suivre ces élections européennes avec une soirée spéciale à partir de 19h30. Et je rappelle ce chiffre en très forte hausse, c'est une surprise. 43,29%, c'est le taux de participation à 17h.
Europe 1.
Peut-être à suivre un coup de tonnerre dans l'automobile. Va-t-on vers une alliance entre Renault et Fiat Chrysler ? C'est juste après ça.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h10, la suite du journal sur Europe 1. Fabien Lemoyle, Philippe Vandel.
Question, va-t-on vers une alliance entre Renault et Fiat Chrysler ?
C'est ce qui pourrait être annoncé demain lors d'un conseil d'administration du constructeur automobile français. Et si ça se concrétise, Aurélien Fleureau, ça va renforcer la place de numéro 1 mondial de Renault avec ses alliés.
Oui, l'ensemble Renault, Nissan, Mitsubishi, avec donc en plus le groupe Fiat Chrysler, cela donnerait plus de 15 millions de voitures vendues chaque année, ce qui leur permettrait de largement distancer leurs concurrents, puisque jusque-là, c'est très serré. Vous avez Renault-Nissan en tête avec 10 700 000 véhicules et qui devance donc de peu Volkswagen et Toyota. Cette annonce, ce serait donc un coup de tonnerre dans le secteur, même si l'on savait depuis quelques mois que Fiat Chrysler, qui est en grande difficulté, notamment sur ses ventes en Europe, aiguisait les appétits. En mars, c'est le groupe PSA qui avait manifesté son intérêt. Et du côté de Renault, cela fait plusieurs semaines que les discussions se sont approfondies. Cette alliance franco-italo-américaine aurait plusieurs conséquences. Elle changerait d'abord le rapport de force au sein de l'attelage actuel, Renault-Nissan-Mitsubishi, en renforçant la partie française. Ces discussions se font d'ailleurs sans Nissan à ce stade, même si les autorités japonaises ont été informées. Côté français, le gouvernement est averti du projet. Il est plutôt favorable sous condition, notamment en termes d'emploi côté français, et que cela se fasse dans le cadre de l'Alliance.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci beaucoup Fabienne. La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Encore un jour ou deux de patience avant enfin de retrouver le beau temps.
Tout à fait Philippe, et demain le temps est encore assez maussade mais en voie d'amélioration. Alors sur les Alpes, les nuages toujours nombreux vont donner des averses l'après-midi. La Corse va garder aussi un temps très perturbé, couvert avec des pluies régulières et parfois marquées et de l'orage par moment. Le pourtour méditerranéen profite de nouveau d'un temps ensoleillé et sec mais toujours venté avec une tramontane à 90 km/h et du mistral à 80. Ailleurs, on connaît une perturbation relativement faible tout de même mais désagréable qui va traverser le pays du sud-ouest à l'est dans la journée. À l'arrière de ce passage perturbé, c'est-à-dire de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, le ciel redeviendra plus variable le matin et de belles éclaircies se dessineront l'après-midi pour s'étendre jusqu'au Poitou-Charentes et jusqu'en Lorraine. Les températures du matin, elles oscilleront entre 9 à Saint-Girons et 18 à Nice et l'après-midi entre 17 à Cherbourg et 28 à Avignon. Elles sont assez stationnaires.
Merci beaucoup Valérie Darmon. J'aime bien, comme vous dites, les températures.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous a présenté la météo.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec Cyril Delamonnerie. On va parler de tennis. Oui. C'est la première journée à Roland-Garros. Retour gagnant pour Roger.
4 ans après son dernier match Porte d'Auteuil, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a gagné sans difficulté son premier match. Corinne Boulou, vous êtes en direct du cours Philippe Châtrier. Corinne, qui devait être... Oui, Corinne,
Cyril,
on vous entend.
Oui,
on vous entend.
Le public de Roland-Garros qui lui a réservé une belle ovation à son entrée sur le cours Châtrier flambant neuf, comme à sa sortie d'ailleurs après un peu plus d'une heure et demie de match. Le numéro 3 mondial n'a pas manqué son premier rendez-vous sur la terre battue parisienne en s'imposant face à l'Italien Sonego, 73e mondial en 3-7, 6-2, 6-4, 6-4. Et notre consultant Cédric Purine a demandé ses sensations sur le cours à Roger Federer.
J'étais bien crispé au début. Voilà.
Ça s'est pas vu, hein.
Heureusement, non. Mais le pulse, il était plus haut et vous m'avez manqué. Alors merci beaucoup pour l'accueil. C'était fabuleux. Merci mille fois.
Et bravo à Roger Federer au micro, en effet, de Cédric Pioline. La sensation du jour, Corinne, c'est le Français Nicolas Mahut qui l'a réalisé sur le magnifique cours Simone Mathieu.
Oui, en arrachant une qualification en 5-7 face aux demi-finalistes de l'an passé, l'Italien Cecchinato, au terme d'un match héroïque de plus de 3 heures, alors que l'Angevin, 253e mondial qui bénéficiait ici d'une invitation, était mené 2-7-0. Avec le soutien du public du nouveau cours Simone Mathieu, Nicolas Mahut a réalisé l'exploit de la journée. À noter que Kristina Mladenovic s'est également qualifiée pour le deuxième tour. Ce sont les deux seuls Français qualifiés sur les 6 en lice aujourd'hui, Cyril.
Merci. Merci Corinne Boulou en direct de Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
L'autre actualité du jour, c'est bien sûr la Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco.
Et troisième victoire de la saison pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique a dominé de bout en bout cette édition monégasque. Le quintuple champion du monde a résisté malgré des pneus usés à Max Verstappen. Parti du fin fond de la grille, le pilote monégasque Charles Leclerc n'a pas réussi son pari. Il a dû abandonner. Frédéric Michel, vous êtes notre envoyé spécial à Monaco.
Et il aura mené la course de bout en bout. Lewis Hamilton s'impose en principauté. En pole position de ce Grand Prix, le pilote britannique n'a pas tremblé au moment du départ, devançant son coéquipier Valtteri Bottas, la Red Bull de Verstappen et la Ferrari de Sébastien Vettel. Verstappen qui a fait toute la course derrière la Mercedes, mettant la pression sur Hamilton, mais sans jamais trouver l'ouverture. En raison d'une pénalité, il termine quatrième. Déception pour le monégasque Charles Leclerc. 16e sur la grille de départ, il a pris tous les risques avec sa Ferrari, remontant jusqu'à la 12e place, mais au 8e tour, il y a eu le dépassement de trop, l'accrochage, puis la crevaison avant l'abandon. Le premier français Pierre Gasly sur Red Bull est 5e, Romain Grosjean termine 10e. A noter qu'avant la course, le monde de la Formule 1 a rendu un hommage appuyé à Niki Lauda.
Frédéric Michel de Monaco, prochain Grand Prix dans 15 jours au Canada.
Et puis en rugby, le retour d'un club historique en top 14, Bayonne.
L'aviron bayonnais s'est imposé en finale de Pro D2 face à Brive, 21-19.
C'était le journal des sports de Cyril Damorinerie. À tout à l'heure, Cyril.
Europe 1.
À suivre cette question, mais qui va garder les gosses? Il manque aujourd'hui entre 200 000 et 300 000 places en crèche. Puricutrices et assistantes maternelles se mobilisent en France avec un mot d'ordre: pas de bébé à la consigne. Les parents ont dû faire face à des grèves, parfois des crèches fermées cette semaine. Comment s'en sortir? Réponse avec Anaïs Lunet, elle est cofondatrice de Nova Vitam. Elle sera avec nous dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h17, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. On vous retrouve, Philippe Vandel, avec votre premier invité. C'est la fête des mères, ça ne pouvait pas mieux tomber.
Jeudi, les puéricultrices et les assistantes maternelles se sont mobilisées à l'appel du collectif « Pas de bébé à la consigne ». Les parents, certains parents, ont dû à nouveau faire face à des grèves, parfois des crèches fermées. Tout n'est pas pourtant négatif dans l'univers de la garde d'enfants. Depuis hier, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour simplifier le paiement de votre nounou. On va y revenir. Mais d'abord, les sujets qui fâchent. Bonsoir Anaïs Lunet.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice de Nova Vitam. En quelques mots, en quoi consiste votre activité?
Nova Vitam est un cabinet de conseil qui permet aux parents de mieux concilier leur vie perso et pro. Notre but est de faire en sorte que la parentalité ne soit plus un frein à la carrière.
Ah ben on est dans le cœur du sujet. La France, on le sait, a l'un des taux de fécondité les plus élevés d'Europe, mais il ne cesse de baisser. Et une des explications, c'est qu'il manque aujourd'hui entre 200 000 et 300 000 places en crèche. Le gouvernement, je l'ai dit, propose une ordonnance pour assouplir les conditions d'accueil des bébés en simplifiant la règle du nombre d'encadrants par enfant. C'est assez technique. Est-ce que vous pouvez expliquer?
Alors, on va essayer de simplifier le plus possible la technique. Aujourd'hui, on fait une différence entre les âges des enfants. Donc, on va ranger, entre guillemets, les enfants en trois catégories. Les bébés, les moyens et les grands. Alors, parfois, les grands s'appellent aussi des marcheurs. Aujourd'hui, ce que propose l'ordonnance...
Les bébés, c'est ceux qui ne savent pas encore marcher.
Les bébés, c'est vraiment l'accueil d'un bébé, c'est à partir de 2 mois.
D'accord.
Et un enfant marche entre 9 mois... à 18 mois, ça dépend des enfants parce que la motricité est différente à chaque enfant. Ce que propose l'ordonnance, c'est de simplifier, entre guillemets, l'accueil des jeunes enfants. Pour l'instant, pour ce qui existait dans l'ancien système, on avait un adulte pour 5 bébés et un adulte pour 8 enfants qui sont un petit peu plus grands, qu'on appelle en général les marcheurs. Ce que propose l'ordonnance, c'est de passer à un adulte pour 8 enfants, pour tous les bébés qui ont plus de 18 mois. Il y a une autre piste qui est aussi évoquée, c'est un adulte pour 6 enfants, tout âge confondu.
Alors, l'idée, évidemment, c'est pour qu'il y ait plus de places en crèche, puisqu'il y aurait besoin de moins d'adultes, donc moins de salariés. Donc, est-ce que c'est une bonne idée selon vous ou une fausse bonne idée?
Selon moi, selon le cabinet Nova Vitam, c'est une fausse bonne idée. Parce que, oui, il y aura plus de places en crèche, mais ce sera au détriment de la qualité d'accueil des enfants. Évidemment, un enfant qui ne marche pas, un enfant de 2 mois, un bébé de 2 mois, n'a absolument pas les mêmes besoins en termes d'encadrement, en termes d'attention, qu'un enfant qui a 2 ans, par exemple.
Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est pas de compromis, un monde parfait ou rien?
Parce que je pense aux parents qui nous écoutent et qui disent c'est pas très très grave. Au lieu qu'il soit gardé avec 4 autres, il sera gardé avec 5 autres, mon petit bout de chou.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a entre 200 000 et 300 000 places en crèche qui manquent. Ce chiffre est aussi à mettre à relativiser avec tous les autres modes de garde qui existent. Il y a des assistantes maternelles, il y a des haltes de garderie, il y a énormément de modes de garde qui existent. Et dire factuellement qu'il y a 200 000 à 300 000 places en crèche qui manquent, c'est ne prendre que le nombre d'enfants et ne pas regarder la disparité, toute l'offre de modes de garde.
Alors, avant qu'on parle de toute l'offre, comme vous dites, de modes de garde, il y a une autre évolution qui est prévue par l'ordonnance, qui c'est le nombre de mètres carrés par enfant. Pardon de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on parle de poulets
mais c'est un
dans
peu
des
ça.
Élevages. Non, quand même pas. Il resterait... Alors, en ce moment, c'est combien ? C'est 7 mètres carrés par enfant.
En ce moment, c'est 7 mètres carrés par enfant, quel que soit l'âge.
Mais on sait que les mètres carrés sont très très chers dans les grandes villes, et notamment à Paris. Et donc, le gouvernement voudrait faire descendre ce nombre de mètres carrés. À
exactement. Le nombre de mètres carrés serait 5,5, sauf
par
dans,
enfant.
Par enfant. Sauf dans les zones avec une forte densité financière, foncière, pardon, où on augmenterait de 2 mètres carrés.
Mais 10 enfants dans 55 mètres carrés, pardonnez-moi, ça n'a pas l'air énorme, c'est beaucoup, c'est peu.
En fait, il faut prendre l'étendue de ce que ça sous-entend. Parce qu'en fait, un enfant ne va pas avoir un enclos de 5 mètres carrés sur 5...
On a bien compris.
On est d'accord.
Bah, plus raison, s'ils sont 10 dans 55 mètres carrés, ils peuvent s'amuser. On peut se marrer
c'est
déjà.
C'est tout l'environnement en fait, du mode de garde. C'est-à-dire, il va y avoir un coin change, il va y avoir un coin activité, il va y avoir un coin d'accueil pour les parents. Et tout ça... Ne peut pas être permis si on réduit le nombre de mètres carrés. Et en plus, ça met des bâtons dans les roues sur des initiatives, sur les crèches qui réfléchissent à la motricité libre, comme l'a conceptualisé Amy Pickler, pour pouvoir accueillir les enfants différemment. Donc l'ordonnance entre le nombre d'enfants par adulte et les mètres carrés fait que des crèches comme par exemple le groupement Léo et Léa, qui proposent des crèches où les enfants vont où ils veulent, en fonction de leurs besoins et de leur motricité, ne pourront plus rentrer dans cette grille-là.
Je voudrais vous citer un témoignage que j'ai entendu sur Europe 1. C'était une puéricultrice gréviste qui était interrogée par notre station qui disait « Désormais, si on passe à 5,5 mètres carrés par enfant, elle disait, on ne pourra pas faire des activités correctes ni donner une alimentation correcte. On passera complètement à côté de l'apprentissage. » Et elle ajoutait, on ne sera plus sur de la bienveillance, on sera sur de la maltraitance. C'est le mot qu'il faut employer. Est-ce que vous iriez aussi loin ?
Le mot est très fort. Le mot est très fort sur maltraitance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le maître mot de ce mouvement qui s'appelle « Pas de bébé à la consigne », c'est de continuer à accueillir les enfants avec la bienveillance et l'idée est d'accompagner l'enfant vers l'autonomie et de faire en sorte que l'enfant qui rentre en maternelle à 3 ans ou 2 ans et demi en fonction des âges, qu'il puisse être à l'aise dans ses baskets au moment où il va rentrer en petite section.
D'accord.
Et on en revient sur un grand débat qui était sur la garderie. On revient longtemps en arrière quand on pensait que la maternelle était un mode de garde et était une garderie. Non, la crèche est aussi un lieu d'apprentissage et c'est le premier lieu de sociabilisation des enfants et il ne faut pas le brader. Après, de dire que c'est de la maltraitance, c'est un verbatim fort.
Qui garde les enfants actuellement ? C'est les parents, les grands-parents, une assistante maternelle agréée, la crèche, le système D ?
On tombe souvent des nues quand on connaît les chiffres. C'est un peu rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans la galère. Aujourd'hui, il y a 60% des enfants en France qui sont gardés par leur famille. Donc ça peut être soit tout de suite, on pense famille, on pense parents, donc ça peut être le père, la mère, mais c'est aussi la famille élargie. Ensuite, il y a une vingtaine de pourcents qui sont gardés par des assistantes maternelles ou des nounous, et il n'y a que 13% des enfants qui sont en crèche.
Et les papas dans tout ça ?
Eh bien, les papas, ce qui serait génial, ce serait que les pères puissent prendre, faire le choix du congé parental s'ils le souhaitent.
C'est pas toujours possible. Que dit la loi et comment est-elle appliquée ?
La loi, depuis que Najat Vallaud-Belkacem a promulgué une nouvelle loi pour la réforme du congé parental, aujourd'hui, si on veut prendre un congé parental dans son entièreté, il faut que les deux parents le prennent. Mmh. Donc la loi permet au père, mais elle le permettait avant. La loi, aujourd'hui, elle se veut incitative pour que les hommes puissent prendre leur congé parental.
Et est-ce qu'elle est appliquée ?
Elle est appliquée, seulement il y a quand même encore une omerta et on va pointer énormément les hommes qui prennent leur congé parental parce que ce n'est pas dans la norme. Et du coup, on va retrouver le mommy penalty d'un côté et le daddy bonus. C'est-à-dire ouais. qu'un homme qui devient père devient chef de famille. En général, on va lui donner une prime et on va le féliciter, alors qu'une femme qui a un enfant est un agent à risque.
Vous dites qu'il y a parfois des absurdités pour les pères qui veulent prendre un congé parental. Comment ça se passe ?
Alors, il y a des absurdités totales. Je vais vous citer un exemple qu'on a accompagné. On a accompagné un couple qui était une famille recomposée. C'était l'arrivée du troisième enfant. Un des enfants était malade. Le père a voulu prendre des jours d'enfant malade. Ce n'était pas possible parce que la convention collective ne le permettait pas. Sa compagne, qui n'était pas la mère de ses enfants, a pu prendre des jours d'enfant malade. Donc là, on marche sur la tête.
Tout n'est pas négatif, je l'ai dit, dans l'univers de la garde d'enfants. Depuis hier, il y a quelque chose qui a changé pour simplifier le paiement de la nounou. Il y a le service CESU qui va changer. Ça, c'est pour le service à domicile. Et Page Emploi pour la garde d'enfants. Expliquez, il y a une nouveauté. Ça s'appelle Page Emploi Plus. Vous avez une minute pour nous expliquer cette nouveauté.
Une minute. Montre en main, c'est parti. Avant, c'était la CAF qui gérait cette partie-là, sous le même nom. Aujourd'hui, c'est Page Emploi qui reprend l'intégralité de cette prestation. Les choses, ce qui change, c'est qu'on va faciliter le plus possible la vie des parents employeurs. On appelle parents employeurs les parents qui font appel à une nounou. Ce que va changer vraiment ce dispositif, c'est qu'on n'aura plus besoin de s'arracher les cheveux à savoir combien d'heures, combien on va payer. Tout va être fait par Page Emploi.
Et on n'aura même plus besoin de faire de chèques, plus besoin de déclarer les charges sociales. Ça sera prélevé directement sur son compte et on pourra toucher également les aides sur son compte.
Exactement. L'idée, c'est de centraliser et de simplifier.
Merci beaucoup Anaïs Lunet. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Nova Vitam. Merci d'être venue avec nous en direct sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Oclocratie, Scrollé, Biomolécules, Serrano. Comme chaque printemps, de nouveaux mots entrent dans les dictionnaires. Mais comment sont-ils choisis ? Réponse dans un instant avec celui qui attrape ces mots flottants pour les faire entrer au panthéon de la langue. Édouard Trouillet, lexicographe au Robert. Il est avec nous dans ce studio dans un instant.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Vandel sur Europe 1. Bienvenue dans votre grand journal du soir.
Le rappel des titres maintenant avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Forte participation aux élections européennes en France métropolitaine à 17h40. 3,29% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 8 points de plus que lors du précédent scrutin 2014. Et cette participation devrait continuer de progresser selon deux instituts de sondage. IFOP, Fiducial et Harris Interactive Epoca, elle devrait s'élever à 20h entre 52 et 54%. Quelques estimations chez nos voisins. En Allemagne, le centre droit d'Angela Merkel est en tête, mais toucherait un plus bas historique. Les Verts réalisent une percée à plus de 20%. L'extrême droite est donnée à plus de 10%. En Autriche, le parti conservateur du chancelier Kurz est donné en tête et l'extrême droite, troisième. Également dans l'actualité, trois Français condamnés à mort en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique. Ils ont 30 jours pour faire appel. Peut-être un nouveau géant mondial de l'automobile. Renault et Fiat Chrysler s'apprêtent à annoncer un projet d'alliance. Selon plusieurs sources, l'annonce pourrait être faite demain matin avant l'ouverture de la bourse. Et puis le tennis avec Roland Garros. Corinne Boulou, deux anciennes finalistes sur le court ce soir.
Oui, encore sur le court, Sloane Stephens, finaliste l'an passé. Elle avait perdu face à la tenante du titre, la Roumaine Simona Halep. Stephens qui mène déjà 5-3 dans le premier set. Sur le court, Simone Mathieu, où l'on a vu tout à l'heure l'exploit de Nicolas Amahu qui a éliminé le demi-finaliste de l'an passé, Cecchinato. Eh bien, Elina Svitolina, la petite amie de Gaël Monfils à la ville, 9e mondiale, mène 1-0 face à la doyenne des joueuses ici, l'américaine Venus Williams, qui est à 38 ans et 52e mondiale. Elle est donc menée, Venus Williams, à 7-0.
Merci Corinne Boulou, en direct de Roland-Garros.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. À tout à l'heure, le rappel des titres, pardon.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Les températures poursuivent leur hausse demain.
Tout à fait, les minimales oscilleront entre 9 et 14 degrés en général, 13 à 17 près de la Méditerranée, les maximales de 17 à 23 globalement, 23 à 28 près de la Grande Bleue et en basse vallée du Rhône.
Je vous donne le détail de ces maximales de demain. 19 annoncées par Météo France à Angoulême, à Périgueux et à Châteauroux. 20 degrés à Bordeaux, à Saint-Étienne et à Verdun. 21 à Paris, à Lille et Vannes. 22 degrés au Mans, à Toulon et Épinal. 25 à Marseille et 28 à Avignon. Du côté du ciel, du sud-ouest à l'est, le ciel sera très nuageux à couvert dès ce lundi matin avec des pluies faibles par moments, mais quasiment toute la journée en revanche. Et puis en fin de journée, elles vont se décaler petit à petit vers les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l'Est. Au nord et au sud de cette zone, le ciel est plus ensoleillé.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1, 18h31, nouvel entretien dans ce grand journal du soir. Philippe Vandel, qui de vous ou de votre invité aura le mot de la fin?
Bonne question. Les mots également, leur printemps. Chaque année, les dictionnaires, le Petit Robert, le Petit Larousse illustré font éclore une centaine de nouveaux mots. Bonsoir Édouard Trouillet.
Bonsoir.
Vous êtes lexicographe dans l'équipe du Petit Robert, sous la direction du célèbre Alain Rey. C'est transpartisan un dictionnaire?
En tout cas, le Petit Robert est un dictionnaire qui est très ouvert.
Je vous demande ça parce que le mot vient d'arriver chez vous. Ouais. Transpartisan qui dépasse les clivages politiques. Vous travaillez depuis 7 ans pour le Petit Robert. Vous faites ce qu'on appelle de la veille néologique. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est le fait de surveiller l'apparition des mots nouveaux, mais aussi des expressions nouvelles, des sens nouveaux, puisqu'il y a des mots qui existent déjà qui peuvent prendre un nouveau sens. Et c'est un travail qui se fait vraiment tout au long de l'année, soit de manière un petit peu systématique. On va prendre un numéro, le numéro d'un journal pour chercher ce qui nous semble nouveau. Mmh. Mais généralement, ça se fait plutôt de manière accidentelle. C'est-à-dire que dans toutes les situations de la vie quotidienne, quand on lit un journal, quand on écoute la radio, quand on discute avec nos amis, quand on regarde la télé, on se dit « tiens, ça semble nouveau, ouais. On va le noter et on va mettre ça ensuite dans une base de données. » Et une fois par an, il y a notre service documentation qui fait un premier tri de tout ce qu'on a récolté pendant un an. Et ensuite, les membres du comité éditorial votent pour les nouveautés de la prochaine édition du Petit Robert.
Quels sont les critères pour qu'un mot soit retenu ?
Il y a de nombreux critères. Il faut que le mot soit répandu, il faut que son sens se soit fixé, il faut qu'il soit connu par beaucoup de locuteurs du français. Et puis, il faut qu'il désigne une réalité qui a besoin d'avoir un nom.
Ah bah tiens, alors, puisque vous parlez qu'il faut qu'un mot soit parlé, un mot qui m'a étonné, oclocratie. D'abord, qu'est-ce que l'oclocratie? Ça s'écrit O-C-H-L-O, puis ensuite cratie comme démocratie.
Alors, c'est un gouvernement par la masse, par le peuple. Ça vient du grec, hein, oclos, le peuple. Et c'est un mot qui existe depuis longtemps, qui était déjà dans le Grand Robert, ouais. Et on a vu que dans le discours politique, ce mot était à nouveau employé, donc on a décidé de le mettre aussi dans le Petit Robert.
C'était ma question parce que je ne l'ai pas entendu une seule fois. Je l'ai découvert aujourd'hui en préparant ce dossier et pourtant il y avait les Gilets jaunes à qui on a assez reproché de vouloir gouverner par la foule.
Mais effectivement, c'est à l'occasion des Gilets jaunes que ce mot a été très employé.
Est-ce qu'il faut qu'un mot soit nouveau pour qu'il arrive dans le dictionnaire ?
Il faut qu'il soit plus ou moins nouveau. Ça dépend. Il y a des mots qu'on va faire entrer très très vite dans le Petit Robert. Je pense par exemple à selfie, vapoter. Là, on n'a pas hésité très longtemps et tout de suite dès leur apparition. Et puis, il y a des mots pour lesquels on attend un peu plus longtemps. Là, vous voyez le cas de clocratie. Pour le mettre dans le Petit Robert, on a attendu.
J'avais également repéré totote, qui signifie dans le Nord un sein de femme. Vous donnez ce magnifique exemple. Elle a des grosses tototes, ma tante Charlotte. Sauf que ça remonte, ça vous fait rire, mais ça vient de vous. Le mot remonte à 1892. Pourquoi arrive-t-il seulement maintenant dans le dico?
Parce que petit à petit, on essaye de donner une vision vraiment large de la francophonie, c'est-à-dire du français de France, du français des autres pays francophones, mais aussi des différentes régions de France. Donc chaque année, on en ajoute un petit peu. Et totote me tient particulièrement à cœur parce que moi, je viens du Nord, donc je connais ce mot depuis que je suis enfant et j'ignorais totalement que le reste de la France ne le connaissait pas.
Ben, je l'ai appris grâce à vous. On reste dans la politique, une démocrature, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une démocratie qui a des dérives dictatoriales, hein. C'est un mot valise formé à partir de démocratie et dictature.
C'est ce qu'on dit par exemple de Poutine.
Voilà, on le
qui
dit.
Qui est élu, mais dans des conditions qui sont, qu'on peut discuter. Ouais. Le Petit Larousse a intégré Fachosphère, c'est l'ensemble des partis politiques de la tendance fasciste et plus généralement d'extrême droite. Pourquoi n'en avez-vous pas voulu ?
Je crois qu'il est déjà dans le Petit Robert.
Donc vous étiez avant eux.
Voilà.
Ça allait être ma question. Est-ce que la concurrence s'espionne entre elles? Dans le Petit Larousse, j'ai trouvé charge mentale, ubérisé, antispécisme, dédiésie.
je vais pas y arriver, je me dis tu vas pas y arriver et j'y arrive pas. Dieselisation. Pourquoi pas vous ?
Alors tous les mots que vous venez de citer, sauf le dernier, sont dans le Petit Robert. Hein, ouais. Donc on les a mis dans le Petit Robert avant nos concurrents. Bien évidemment, on regarde ce que fait la concurrence. Hein, ce serait une faute professionnelle de pas le faire, mais on fait ça de manière très sympathique et dans le respect.
Vous changez combien de définitions d'une année sur l'autre ?
Alors, on ajoute entre 100 et 150 mots nouveaux chaque année, mais on ajoute également de nombreux exemples, des citations littéraires, des expressions, des sens nouveaux, des renvois analogiques nouveaux, puisque le Petit Robert est en dictionnaire analogique. Donc, ça fait des centaines et des centaines d'interventions chaque année.
Il y a une polémique l'an passé à cause de l'apparition chez vous du mot frotteur, celui qui recherche les contacts érotiques dans les transports en commun. Polémique, car vous n'aviez pas mentionné l'absence de consentement de ou des victimes. Ça a été corrigé cette année.
Ça a été corrigé, effectivement, on a revu la définition. L'autre point qui posait problème, c'était l'emploi du mot érotique qui a été mal compris. Érotique, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose de positif. Donc ce mot avait gêné un petit peu. Donc on a décidé de revoir la définition.
Et puis il y a également tout le vocabulaire gastronomique. Vous avez rajouté Prosecco, mais pas le Spritz.
Si, le spritz était déjà
alors,
mon
mince,
petit
alors,
Robert.
Vous êtes trop fort. Donc vous avez réussi à faire le spritz sans faire le prosecco. Et vous avez intégré Serrano, qui est quand même un jambon qui existe depuis des décennies et que Marlène adore. Pourquoi seulement maintenant le Serrano ?
Parce que il y a 10 ou 20 ans, il était quand même moins répandu. Donc voilà, cette année, on s'est dit que c'était l'année du Serrano.
Vous-même, avez-vous des mots préférés ?
Alors il y a un mot qui m'amuse beaucoup, c'est jarniguane, c'est un mot canadien qui est assez amusant, qui est un peu l'équivalent de la jugeote.
Ouais.
Souvent les mots canadiens sont très expressifs comme ça. Et puis il y a des mots qui me tiennent aussi à cœur comme cyberharcèlement ou transphobie, parce qu'ils reflètent un petit peu les dérives de notre société et c'est important de pouvoir les nommer pour pouvoir les combattre.
Et on les a souvent cités ici à ce micro puisqu'on a déjà traité ce sujet. Dernière question, est-ce que vous avez déjà noté des mots pour l'édition 2021 ?
Bien sûr, mais je ne vous les dirai pas.
Super, ça c'est de la chute. Et c'est sur ce message d'espoir que nous allons vous quitter, Édouard Truyer. Je rappelle que vous êtes lexicographe pour le compte des dictionnaires Robert. Merci d'avoir été avec nous en
Merci
direct sur Europe 1. Et on va justement rester dans l'univers des mots, puisque notre invité média dans quelques secondes est François Bunel, vous le connaissez. Il présente la Grande Librairie sur France 5. Et puis juste après la chronique média de Renaud Revel, on va parler du temps de parole en campagne. Le CSA veut revoir tout ça, il était temps.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h39, c'est l'heure de notre page média sur Europe 1, toujours avec vous Philippe Vandel.
Bonsoir François Bunel.
Bonsoir Philippe.
Vous présentez la Grande Librairie sur France 5, c'est votre 11e saison et la dernière c'est ce mercredi. Est-ce qu'on peut faire un bilan ? Comment s'est passée l'année ?
Très bien.
D'accord, j'imaginais pas autre chose. Il y a une grande nouveauté entre la saison dernière et cette saison, c'est que vous êtes passé, enfin l'émission est passée du jeudi soir au mercredi soir. Pour quelle raison et qu'est-ce que cela a changé pour vous, si tant est que cela ait changé quelque chose ?
Alors la raison, je peux pas vous la donner autrement que en vous disant que Takis Candilis, qui est donc le patron de tous les programmes, m'a proposé de changer de grille l'été dernier. Et après tout, pourquoi pas, vous voyez.
Non, mais c'était quoi l'idée directrice ?
Je crois que l'idée directrice, c'était pour lui de rebattre un petit peu les cartes de sa grille de programme. Et puis, nous sommes dit, on est peut-être assez fort, après 10 ans d'existence, pour aller conquérir un nouveau public sur une autre case. Alors, dans les faits, c'est presque ça.
Ouais.
Parce que, bon, voilà, il y a eu cette année un petit peu de...
Je vais vous le dire, j'ai regardé 490 000 téléspectateurs toutes les semaines. Et l'an passé, la moyenne, le jeudi, c'était 530 000.
Voilà.
Mais pour avoir changé de jour, c'est comme si on change l'adresse d'un resto, il faut que les gens s'habituent.
Oui, vous savez mieux que moi que la radio et la télévision sont des médias d'habitude.
Ouais.
Donc oui, quand on change un rendez-vous, il faut le temps de se réhabituer. Cela dit, on en a encore parlé il n'y a pas très longtemps avec Takis Candilis et Delphine Ernotte, tout va bien et on se dit que l'habitude, les gens vont commencer à l'apprendre.
Vous me donnez une info, quelle est ma prochaine question ? Si vous parlez encore au patron, c'est donc que vous avez signé pour la saison prochaine. Parce qu'en général, quand on veut supprimer une émission de la grille, on ne parle plus à l'animateur.
Oui, c'est vrai.
Et il n'a plus personne au téléphone.
Sauf que là, en l'occurrence, on se parle, effectivement. Et puis, vraiment, Philippe Vandel, on n'est pas nécessairement mis sur la touche parce qu'on change d'heure ou de grille. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas mécontent. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est les défis.
Ouais.
C'est quand même un peu facile d'être dans la reproduction du même. Donc oui, quand on vous dit, tiens, est-ce que tu crois pas que le mercredi, on peut aller chercher un autre public ? Pourquoi ne pas essayer ? C'est très français de se dire, on n'y va pas, on reste dans notre confort, dans nos charentaises et dans nos chaussons. À partir du moment, moi, j'ai pas de raison de les mettre en doute. On nous dit, on veut que tu restes, on souhaite que la Grande Librairie reste en prime time, soit une émission qui va chercher le plus grand public pour parler de lecture et de littérature. Moi, ça me va. Hein.
Ah bah tiens, puisque vous parlez de grand public, donc cette semaine, pour la dernière, le 29 mai, vous recevez Trinh Xuân Thuận.
Ouais.
Vous recevez...
Vous allez me dire que vous connaissez pas.
Alain Damasio.
Vous connaissez pas? Il est numéro un des ventes.
Je vais vous dire, ça va être ma question. J'allais dire, c'est pas les noms les plus connus qui soient. Est-ce que c'était un choix éditorial ou est-ce qu'il y avait que de libres?
Non, c'est un choix éditorial. La première raison, et là c'est parce que vous potassez mal vos fiches, mon petit Fifi, il est numéro un des ventes.
D'accord.
Alain Damasio est un écrivain formidable. Il écrit un livre tous les 15 ans. Mais quel livre? C'est aujourd'hui celui qui incarne la science-fiction à la française. Et c'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle La Volte. Incroyable, numéro un des ventes sans quasiment aucune promotion.
Oui. C'est génial, c'est tout ce que vous aimez.
Bah, oui, parce
c'est la philosophie même de la grande librairie.
Oui.
Pour moi qui vous regarde très souvent, c'est ce que vous aimez.
Ce que j'aime, c'est deux choses. Un, faire découvrir des gens que personne connaît et croit connaître. Deux, suivre les gens qui, depuis une dizaine d'années que l'émission existe, ont grandi avec nous. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai fait une émission d'une heure avec Laurent Godet. Eh bien, Laurent Godet est quelqu'un qui, il y a 10 ans, était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui.
C'était Le Soleil et Scorta.
Voilà,
mais c'était le Goncourt quand même. Enfin, il était connu par le Goncourt.
Ouais.
Il se trouve que j'ai vu l'émission et il y avait plein de surprises. Donc là aussi, vous avez changé la dramaturgie de l'émission. C'est plus posé comme autrefois.
Exactement.
L'émission évolue. Alors, de la même manière, j'aime beaucoup cette phrase, François Bunel. Vous dites vouloir favoriser la critique solaire à la critique des chacals. J'adore cette expression, mais c'est quoi la critique des chacals?
La critique des chacals, c'est une expression de Scott Fitzgerald qui disait il y a deux formes de critique. La critique des chacals qui vous demande ce que vous valez et la critique solaire qui vous demande qui vous êtes et comment vous avez eu envie de faire ce que vous faites. La critique des chacals, c'est celle qui se déchaîne, c'est celle qui ricane, c'est celle qui nargue, c'est celle qui raille, c'est celle qui ne fait rien, est assise derrière un micro, le plus souvent derrière un pupitre, tâche de faire dans un journal que plus personne ne lit, une critique au vitriol d'un livre, simplement pour se faire bien voir.
Il y a aussi ça parfois à la télé.
Parfois, c'est vrai.
Sans citer personne, je vais juste dire que La Grande Librairie est l'émission la plus prescriptrice devant On n'est pas couché, qui est seulement troisième.
Vous appelez ça sans citer personne?
Bah, j'ai cité personne, parce qu'il y a deuxième, c'est Télématin.
C'est vrai.
Ma question, elle est celle-ci, le buzz, ça paye plus en télé?
Je ne sais pas.
Parce qu'avant, on parlait beaucoup de ça. On disait « bad news is good news », on va chez Ruquier, comme autrefois on allait chez Ardisson, on se fait défoncer, mais quand même, le livre se vend en librairie. C'est fini.
Oui, je ne sais pas. Non, parce que je pense que les émissions de Thierry et de Laurent Ruquier sont des bonnes émissions qui continuent de faire vendre des livres. Mais je crois que les gens veulent aussi autre chose. Vous savez, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je crois qu'on est venu aussi dans une période qui est une période où depuis un an ou deux, les gens se rendent compte qu'on veut mettre du sens, qu'il ne s'agit pas seulement de démolir les autres. On peut aimer, on a le droit d'admirer, vous savez. On est dans une société où on a le droit, Philippe, de pouvoir avoir envie de faire la courte échelle plutôt que les croche-pattes.
Vous avez également créé un magazine, un trimestriel avec l'ancien directeur du Monde, Eric Fotorino, qui s'appelle America. C'est assez rare pour être signalé. Il y a seulement 16 numéros. Le numéro 9 est sorti là. C'est quoi l'idée de ce magazine? Qu'est-ce qui a présidé à sa création?
Deux choses. La première, c'est l'élection de Donald Trump, qui a été une surprise, souvenez-vous, à l'époque,
bien
pour
sûr,
absolument tous les commentateurs, alors que pour les écrivains, les romanciers, vous savez, ceux qui sont, vous les adorez en plus, je sais bien, Philippe, des gens qui ont une grande sensibilité, c'était pas une surprise. Et donc, on s'est dit, tiens, si on racontait l'Amérique, mais paf, par des grands journalistes, par des grands romanciers. Donc on va tous les appeler et leur demander, aux Français comme aux Américains, de partir en reportage. Et la deuxième chose, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire en France une presse libre, indépendante, sans publicité, qui ne vive que de ses lecteurs? America, c'est pas un patron qui vend des armes, c'est pas un patron qui vend des téléphones portables, c'est Eric Fotorino, sa société, et la mienne, c'est tout. Et il n'y a pas de pub.
Et ça marche?
45 000 exemplaires par numéro.
Donc c'est rentable? Vous ne perdez pas d'argent?
Ah bah non.
Si je suis bien informé, vous avez mis vos économies personnelles, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Oui, oui, on a cassé la tirelire, Eric et moi, et on s'est dit, on va essayer. On pensait faire un seul numéro et les gens nous ont suivis.
Dites donc, vous avez une petite tirelire alors?
Oui, c'est vrai, c'était une petite tirelire juste pour sortir un numéro.
Merci beaucoup François Brunel. La Grande Librairie, c'est ce mercredi sur France 5 et on n'a pas eu le temps de parler de Jim Harrison. Ça sera une prochaine fois.
Avec plaisir.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h46 et on va rester dans les médias, Philippe Vandel.
La chronique média de Renaud Revel. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, dimanche 26 mai. Je vous apprends rien, c'est le jour du scrutin européen et les Français votent au terme d'une campagne qui n'aura pas été de tout repos pour les médias, médias soumis à des règles d'équité très strictes. Les chaînes de télé et les radios, on en sait quelque chose, ont dû jouer du chronomètre pour respecter les règles imposées par le CSA. Or, il semble que ce dispositif ait du plomb dans l'aile et que l'on s'oriente encore vers une réforme, vous nous dites, Renaud.
Oui, tout à fait, une grande réforme. Tout le monde en convient, en effet, avec 34 listes, un chiffre tout simplement record dans les annales électorales. Les élections européennes auront été un casse-tête pour l'ensemble des médias audiovisuels, soumis, vous l'avez dit, Philippe, à des règles archaïques devenues tout simplement inapplicable. Un dispositif d'autant plus obsolète que ces campagnes, on le sait, se déroulent tout autant sur le net que dans les médias traditionnels, jusqu'au jour où elles basculeront totalement dans le numérique. Or aujourd'hui, Internet ne rentre pas dans le champ de régulation du CSA, même si les choses sont en train d'évoluer à très grande vitesse. Un mot d'abord sur le caractère totalement ubuesque de cette réglementation. On aura vu par exemple, durant cette campagne, BFM TV et LCI organiser des débats à 4 ou 5 candidats, ce qui a déclenché la colère des petits candidats relégués en fin de soirée. Dans d'autres émissions, ce fut le cas du PC ou encore de l'UDI qui ont roué dans les brancards. On aura vu également Benoît Hamon boycotter le débat dit des petites listes la semaine dernière sur France 2 et également le parti animaliste exiger le même temps d'antenne que Nathalie Loiseau, tête d'affiche d'En Marche. Tout cela est devenu totalement ingérable. Interrogé à ce sujet, le président du CSA, Roch Olivier Maistre, que j'ai rencontré cette semaine, explique que ces règles anciennes ont été votées par la loi et qu'elles sont inscrites au code électoral. Une manière un peu dégagée en touche, même s'il admet pour la première fois qu'un toilettage, qu'une réforme sont désormais nécessaires.
Et oui, parce que je résume, si on donne le même temps de parole à 34 listes, on va tous devenir zinzin.
Ah oui.
Les radios, les télés et les auditeurs. Quelle forme, donc, cette réforme peut-elle prendre, Renaud ?
Alors, on ne sait pas encore dans le détail, mais pour commencer, le CSA a décidé de dresser un bilan de cette campagne des européennes dès la semaine prochaine. Le CSA va convoquer ainsi non seulement les responsables des principaux médias audiovisuels, c'est-à-dire les chaînes historiques, TF1, France 2, M6, les différentes radios généralistes, dont Europe 1, ainsi que les responsables de BFM TV, LCI ou encore CNews. Il va également entendre l'ensemble des formations politiques. Objectif de ces consultations tout azimut, mettre tout à plat et inventer la suite. Il faut saluer d'ailleurs au passage la performance des chaînes de télé et de radio, lesquelles se sont plutôt bien débrouillées malgré ce corset réglementaire, ce sacro-saint principe d'équité auxquelles elles sont aujourd'hui encore astreintes. C'est ainsi que le CSA n'aura reçu en tout et pour tout durant cette campagne qui vient de se dérouler que 3 saisines venant de candidats qui estiment avoir été ou sous-traités ou maltraités. La première de Nicolas Dupont-Aignan, la seconde de François Asselineau et la dernière de Jean-Luc Mélenchon. Il y a sans doute de profondes adaptations à faire et nous allons en faire part au gouvernement avec des propositions, explique le président du CSA. Ira-t-on jusqu'à l'abandon du chronomètre ? Rien d'impossible, nous dit-on, du côté de ce même CSA. Le président du CSA compte d'ailleurs en parler à Emmanuel Macron très prochainement. Et si réforme il y a, comme on semble en prendre le chemin, c'est à l'Élysée et à l'Élysée seule qu'on va en dessiner les contours.
Et d'autant que jusqu'à la prochaine présidentielle en 2022, il y aura désormais une élection tous les ans. Merci beaucoup,
oui,
Renaud Revel.
Merci à vous, Philippe.
Europe 1.
Dans un instant, tout roule. C'est la chronique auto de Pierre de Villeneau. Pierre qui va nous parler des innovations chez Volvo.
Un peu de musique dans votre grand journal du soir, comme chaque dimanche, un peu avant 19h. Ce soir, le boss, non pas Philippe Vandel, Bruce Springsteen sur Europe 1. Le nouveau Springsteen sur Europe 1, Hello Sunshine, qui figure sur le nouvel album du boss. Alors un petit peu de patience, l'album sortira le 14 juin. Il s'appelle Western Stars, 13 titres pour nous faire voyager sur les autoroutes désertiques des États-Unis. Bah, vous êtes peut-être au volant en ce moment, c'est parfait, on va parler voiture, Philippe Vandel.
Tout roule, c'est le magazine auto de Pierre de Villeneau. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de sécurité avec Volvo, le constructeur suédois qui est connu pour ça et ça va encore plus loin.
Bah oui, Volvo, dans notre enfance, Philippe, déjà c'était ces breaks familiaux tellement solides qu'on se disait que rien ne pouvait nous arriver une fois à l'intérieur. Une pub des années 90 me faisait rire, on y voyait un homme se donner des claques et avoir mal. Puis, après avoir gonflé ses joues, il se redonnait les mêmes claques, bah, il avait moins mal. C'était les premiers airbags latéraux de chez Volvo.
Vous êtes sûr que ce n'était pas un film qui passait le samedi soir tard ?
Non, ça c'est vous qui l'animiez. Les pubs d'aujourd'hui vont dans le même sens, simplement la sécurité active n'est pas la même. Heureusement, le spot qui marque depuis un an, c'est ce XC60 lancé à pleine vitesse. La conductrice baisse les yeux un instant sur la console Et c'est là qu'une petite fille traverse sur les clous. Hop, la voiture toute seule l'a détectée avec le nouveau système de radar, active elle-même les freins et pile toute seule. Il faut dire que ces derniers temps, la marque suédoise multiplie les annonces au point de vue de la sécurité active, mais aussi passive.
Et est-ce que ça marche financièrement ?
Ben oui, la rentabilité de la marque est en hausse. Le bénéfice net au premier trimestre a presque doublé sur un an, hein, c'est considérable.
Ah oui.
Après l'airbag piéton qui se déclenche sur le capot si vous renversez quelqu'un, il y a eu aussi la promesse de ne plus avoir un seul accident mortel en 2020 impliquant une Volvo. Oui, c'est une promesse. Et très récemment, la marque s'est engagée à limiter sa vitesse à 180 km/h. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est une diversion marketing ? J'ai posé la question à Yves Pasquier-Devigne, le patron de Volvo Car France.
C'est pour dire attention, nous sommes des individus responsables à 95% des accidents et chaque fois, la vitesse est responsable des dommages de l'accident.
Mais pourquoi 180 ? On aurait pu mettre 200, on aurait pu mettre 150. Oui. Pourquoi 180 ?
Parce que c'est une limite. Je pense qu'elle était partie au début pour être un peu plus basse, mais elle aurait été encore plus sensible dans la défense et la privation des libertés. Voilà, aussi, c'est la partie un peu noire de l'interprétation. Donc, c'est juste créer le débat et avoir été le premier à dire, ah, voilà, nous allons brider nos voitures. Mais le 180 km/h n'a pas de sens en lui-même.
Et la réaccélération aussi, parce qu'on dit souvent que pour se sortir d'une situation de crise, même pour éviter un accident, bah parfois, même si on est à 130 sur l'autoroute, il faut réaccélérer pour se sortir d'un flux.
Mais là, vous
flux.
Touchez le vrai point, c'est que ce n'est pas la vitesse qui est problématique, c'est le couple et la puissance de la voiture. Parce que entre 0 et 180, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire un dépassement et avoir de la réserve de puissance. Mais du coup, le débat sur la puissance est complètement différent et ça, on n'y touche pas.
Est-ce que ce n'est pas une manigance en se disant, de toute façon, on n'arrivera jamais aux performances de Mercedes et de Audi, donc commander des voitures moins puissantes qui vont moins vite, bah, on va inventer ça comme stratagème marketing.
Ça fait partie de notre positionnement. La vitesse pure et brute n'a jamais été non plus notre message, ni de communication, ni d'ADN. C'est-à-dire que nous, on est plutôt centré sur sécurité active et sécurité passive. Et la vitesse n'a jamais fait partie des arguments marketing, commerciaux et positionnement. Donc là, encore plus, vous voyez, on met la barre haute. Ce qui fait que c'est juste une création de débat pour dire attention, soyons lucides, la vitesse est responsable de beaucoup de dommages dans tous les accidents.
Voilà, le mot est lâché. C'est pas souvent qu'un officiel d'un constructeur dit que bah non, la concurrence allemande, c'est pas l'objectif, que non, on veut pas aller aussi vite. Vous savez, c'est la fameuse anecdote du type qui bave devant la voiture de sport au salon de l'auto et qui est vite rattrapé par sa femme qui dit non, tu sais quoi, on va acheter un break Volvo, c'est le veau qu'il nous faut. Alors,
déjà, veau. Il faut quand même avoir les moyens de s'acheter une Volvo.
Ouais,
hein.
Mais
ce n'est pas
le
bas de gamme.
Le veau, c'est vite dit, hein, surtout si vous prenez un modèle hybride actuel. Je vous rappelle qu'on est au-delà des 400 chevaux. Un XC60 T8 accélère de 0 à 100 en 5 secondes 3. Donc, c'est même un poil mieux qu'une Audi SQ5. Comme quoi, les Volvo, finalement, peuvent être rapides. Mais plus que jamais, l'argument majeur, c'est de protéger la vie des passagers et ceux qui nous entourent.
Merci beaucoup, Pierre de Villeneuve. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Et dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud, à tout de suite sur Europe 1.
Philippe Vandel sur Europe 1. 18h-20h. Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Dans 30 minutes, nous allons parler des européennes avec nos envoyés spéciaux dans les capitales de toute l'Europe. Salomé Legrand sera elle au ministère de l'Intérieur. Avec nous, Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1 et le directeur adjoint de l'Institut BVA Édouard Le Serre. Prélude à la grande soirée 20h-23h avec Raphaël Duchemin et Sébastien Krebs. Mais avant cela, qui dirige désormais Cosa Nostra ? Pourquoi les prisons françaises sont-elles devenues des passoires ? Où trouve-t-on la cocaïne la plus pure ? C'est le genre de questions que pose et auxquelles répond le criminologue Xavier Hoffer dans son ouvrage « Le crime mondialisé », un ouvrage qui fait froid dans le dos car il ne fait que donner des chiffres et des statistiques officielles. Il sera avec nous à 19h15.
Et continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 19h, bon début de soirée à tous. Le journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les Français davantage concernés par les élections européennes, la participation est en forte hausse par rapport au précédent scrutin de 2014. Dans ce journal, nous retrouverons nos reporters dans des bureaux de vote. Nous irons à Nantes, mais également chez nos voisins italiens, à Rome. Et puis l'actualité, c'est également ce procès sans accusé qui s'ouvrira demain devant la cour d'assises de Paris, celui du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, 22 ans après les faits.
Europe 1.
La participation des électeurs français aux élections européennes en forte hausse.
Elle était de 43,29% à 17h, 8 points de plus que lors du précédent scrutin de 2014. Salomé Legrand, vous êtes au ministère de l'Intérieur pour Europe 1 où vous suivez l'évolution de la participation. Et quels sont les départements qui ont le plus voté ?
Eh bien, je vous donne les trois premiers, l'Aveyron, l'Indre et l'Ardèche. Les trois derniers, Alpes-Maritimes, Corse du Sud et Seine-Saint-Denis. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les plus fortes hausses, quasiment plus 19 points pour l'Ain, plus 17,5 pour le Rhône et puis autour de plus 15 points pour la Côte d'Or, les Hautes-Alpes et le Pas-de-Calais. Et donc ce taux de participation à 17h, le plus haut depuis le milieu des années 90, plus haut de presque un point que la participation finale à 20h lors du dernier scrutin européen en 2014, plus haut aussi que le premier tour des législatives de 2017.
Merci Salomé Legrand au ministère de l'Intérieur pour Europe 1. Et cette participation devrait continuer de progresser et atteindre entre 52 à 54% à 20h selon les estimations des instituts de sondage IFOP Fiducial et Harris Interactive EPOCA.
Les électeurs se sont donc davantage mobilisés pour ce scrutin.
Et on retrouve Pierre-Baptiste Vanzini à Nantes pour Europe 1. Pierre-Baptiste, vous avez fait le tour des bureaux de vote et cette hausse de la participation se vérifie sur le terrain.
Et oui, dans les différents bureaux de vote où j'ai pu me rendre, la participation était en hausse par rapport aux dernières élections européennes. Presque 6 points de plus parmi les votants, beaucoup de jeunes qui veulent faire entendre leur voix.
Je veux avoir un impact comme chacun des citoyens, voir se faire entendre en fait, d'une façon ou d'une autre. Et le vote est une façon de se faire entendre.
D'essayer voilà, de pouvoir apporter sa voix. Alors après, je ne sais pas forcément ce que ça va donner derrière et si mon vote sera pertinent, mais en tout cas c'est d'essayer, quoi.
Moi j'y crois encore, ouais. Et puis je pense que si tous on bouge tous ensemble, il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses, quoi. C'est un peu dommage d'oublier son droit et son devoir.
Et pour Cédric qui est venu voter en fin d'après-midi, la place de l'Europe est aujourd'hui centrale dans nos vies.
L'élection européenne, je dirais que c'est aussi l'avenir de la jeunesse et ça me paraît important de se déplacer aujourd'hui pour prendre son avenir en main. Dans la majorité des lois votées au Parlement, pour beaucoup, c'est les transcriptions de loi européenne. Et aujourd'hui, l'échelon important, c'est l'échelon européen et l'échelon national est important, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant.
Il reste un peu moins d'une heure pour voter ici à Nantes où les bureaux ferment à 20h.
Pierre-Baptiste Vanzini à Nantes pour Europe 1.
Europe 1 qui est également présent en Italie ce soir.
Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial à Rome et les Italiens ont encore beaucoup de temps pour voter.
Oui, encore 4 heures, c'est la spécificité du vote ici, probablement l'un des plus longs car les bureaux ouvrent à 7 heures et ferment à 23 heures. Attilio est venu en fin d'après-midi et il attend beaucoup de ce scrutin.
C'est important parce que, d'après moi, ce vote marquera un changement d'époque sur l'Europe. Je pense que la vision va changer. On va plus prendre en compte les spécificités des pays et des États membres. Il en sortira une Union européenne plus forte, mais qui en même temps respectera davantage la diversité de ces pays.
La campagne a été assez vive en Italie, précise Claudia, qui craint que ce vote ne se transforme en référendum pour ou contre l'Union européenne.
Nous, en Italie, avons des positions très nettes.
Ici en Italie, nous avons des positions très tranchées entre ceux qui veulent rester dans l'Union et ceux qui veulent en sortir. Donc forcément, ce qui va en découler aura des conséquences sur les choix du gouvernement.
Gouvernement de coalition entre droite dure et extrême gauche, c'est aussi l'enjeu ici, savoir quel est le rapport de force entre les deux formations au pouvoir.
Jean-Sébastien Soldaini à Rome pour Europe 1. Et c'est à l'issue de la fermeture des bureaux de vote italiens à 23h que les résultats officiels commenceront à tomber en Europe. En France, les premières projections seront connues dans moins d'une heure à présent à 20h. Et on a pour l'instant les estimations de quelques pays, notamment l'Allemagne, où le centre droit d'Angela Merkel est donné en tête, mais toucherait un plus bas historique. Les Verts réalisent une percée à plus de 20%. Et l'extrême droite est donnée à plus de 10% en Autriche. Le parti conservateur du chancelier Kurz est en tête et l'extrême droite touchée par un scandale de tentative de compromission arrive troisième.
Retour en France où les personnalités politiques se sont pressées dans les bureaux de vote.
Et ce, dès l'ouverture des bureaux de vote, Aurélie Herbemont.
Oui, et c'est Édouard Philippe qui a voté en premier ce matin, dès 8h20 au Havre. Le chef de l'État lui a voté au Touquet à la mi-journée, avant de rentrer à l'Élysée. Autre personnalité qui a accompli son devoir citoyen dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Laurent Wauquiez, lui, a voté au Puy-en-Velay avant de prendre le train pour la capitale. C'est d'ailleurs en région parisienne que la plupart des candidats se sont exprimés. Le chef de file du RN, Jordan Bardella, en Seine-Saint-Denis. La tête de liste LR, François-Xavier Bellamy à Versailles, Nicolas Dupont-Aignan dans son fief de l'Essonne, et c'est Paris qui a vu défiler le plus de têtes de liste. Le communiste Yann Brossa, le leader de la liste PS Place Publique Raphaël Glucksmann, Nathalie Loiseau, chef de file de La République En Marche, l'insoumise Manon Aubry ou encore l'écologiste Yannick Jadot. Alors, à l'heure où je vous parle, beaucoup de ces candidats sont désormais au QG de leurs partis respectifs pour attendre le verdict des urnes dans moins d'une heure maintenant.
Aurélie Herbeumont du service politique d'Europe 1.
Europe 1. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, l'ouverture du procès Toscan du Plantier demain. À tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
22 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier en Irlande, enfin, demain, un procès va s'ouvrir à Paris.
Devant la cour d'assises, le principal suspect, Ian Bailey, sera jugé par défaut car il n'assistera pas à son procès. Soupçonné dans son pays, il n'a jamais été poursuivi. Son avocat, qui a fait le déplacement à Paris, ne sera pas non plus présent à l'audience. Guillaume Bier.
Il est venu jusqu'à Paris pour défendre son client, mais seulement devant les journalistes, car l'avocat irlandais de Ian Bailey n'ira pas devant la cour d'assises. Frank Buttimer fustige le système judiciaire français.
Ce qui se passe ici en France, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Le système français n'a pas aucun de respect pour notre système de justice. Aucun de respect. Monsieur Bailey, il reste en Irlande, il est innocent. Dans notre pays, ici, il n'est pas comme ça. Mais nous avons un système de justice. Nous avons fait notre travail dans notre système criminel. On décide finalement qu'il n'y a pas aucune possibilité de poursuivre M. Bailey.
Hors de question pour lui que son client comparaisse devant la justice française. Il est condamné d'avance, estime l'avocat.
Guillaume Bied du service police-justice d'Europe 1. La peine capitale pour trois Français en Irak. Ils sont condamnés à mort pour leur appartenance au groupe État islamique. Selon la loi irakienne, ces Français ont 30 jours pour faire appel. Dans l'actualité économique, ce pourrait être la naissance d'un nouveau géant mondial de l'automobile. Renault et Fiat Chrysler devraient annoncer demain, avant l'ouverture de la bourse, un projet d'alliance. Ce rapprochement créerait un ensemble de près de 16 millions de véhicules.
Et puis, c'est une révolution dans le milieu vinicole.
Une grande première au concours mondial des vins. Un vin belge est élu meilleur mousseux au monde et détrône tous les champagnes. Le gagnant est une petite exploitation basée à Quévy, près de Mons. Une surprise totale, Mathieu Bock.
Il n'y croyait tellement pas que le jury a dû recompter les voix et même réinterroger les dégustateurs avant d'annoncer que finalement c'était bien un vin belge qui avait gagné. Cette cuvée Prestige 2014 est arrivée première devant 750 vins mousseux du monde entier, dont 220 champagnes. Depuis la création du concours il y a 25 ans, ce sont toujours des champenois qui ont remporté ce prix de la révélation internationale, la catégorie la plus prestigieuse. Cette récompense est donc une surprise totale pour Hubert Eubank, le gérant du domaine du Chandéol.
La vigne belge n'était peu connue et maintenant on va dire ah, mais on fait aussi des bons vins, on faisait de la bonne bière et maintenant on fait aussi du bon vin. Mon associé est Philippe Remuet, champenois. Hein. On a la terre qui est tout à fait la même que la craie de la Marne, donc on a des terres bien ensoleillées, bien exposées. Et on avait investi dans un chai hyper performant pour pouvoir faire un grand produit. On s'est fait entourer de nos conseils. Et donc, voilà, on avait tout mis de notre côté pour essayer de pas trop les champagnes. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre revanche. Je disais à mes amis français, on a eu enfin notre revanche mondiale.
Chaque année, Hubert Eubank produit 100 000 bouteilles de vin. Depuis l'annonce de son prix, ses stocks se sont épuisés. Il rationne le peu qu'il lui reste. Il ne vend désormais qu'une seule bouteille par client.
Le reportage de Mathieu Bock qui a fait beaucoup réagir d'ailleurs en studio.
On a failli partir. C'était le journal de Sophie Tussaud. On vous dit tout. Merci beaucoup, Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Comment s'annonce la semaine qui vient ?
Eh bien, ça s'annonce contrasté avec demain lundi une perturbation atlantique qui traverse la France avec des pluies éparses de la Nouvelle-Aquitaine à la Lorraine. Seuls les bords de la Méditerranée vont échapper au mauvais temps, la Corse étant toujours au cœur d'une dépression. Mardi et mercredi seront les deux journées les plus perturbées de cette semaine avec le passage d'une nouvelle perturbation avec des pluies parfois soutenues du sud-ouest aux frontières de l'est et de la neige sur les Alpes à partir de 2000 mètres. Vous retrouverez des éclaircies au nord de la Loire. Mercredi, un temps variable et sec se réinstalle partout, alternant éclaircies et averses. Près de la Manche et de la Méditerranée, le soleil va se montrer très généreux. Et puis la fin de semaine s'annonce ensoleillée et chaude. L'anticyclone Zasor apporte une amélioration nette, une remontée des valeurs dans le sud avec 30 degrés annoncés pour le week-end prochain en Aquitaine et 25 au nord dimanche prochain dans l'après-midi. Donc en début de semaine, c'est la valse des perturbations et en fin de semaine, c'est le retour du soleil.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Cyril Delamorinerie, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous démarrez par du tennis, oui. Première journée à Roland-Garros, Roger Federer alias Roger n'a pas manqué son grand retour.
Oui, et pour les fans du meilleur joueur de l'histoire, eh bien ce match n'a pas duré assez longtemps, ils étaient venus le voir et effectivement après plus d'une heure trente de jeu, l'homme aux 20 grands chelems levait les bras, heureux, victoire contre l'italien Sonego en 3 manches 6-2, 6-4, 6-4, évidemment ils sont tous heureux, ces fans de Roger Federer qui vont le voir au prochain tour. Alors on va en parler avec notre consultant Cédric Pioline qui est en direct. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et vous aviez tout à l'heure interrogé sur le court central, d'ailleurs Roger Federer qui était très souriant. Comment vous l'avez trouvé ?
Écoutez, je l'ai trouvé content d'être là, content de découvrir ce court central version 2019. Et puis j'étais même un peu surpris parce qu'il m'a confié, enfin et d'ailleurs à tout le monde, qu'il était un petit peu nerveux avant ce match, tout simplement. Il a fait comme d'habitude un départ canon et en fait quand l'Italien s'est réveillé c'était trop tard quoi.
Corinne Boulou.
Oui,
vous aviez
effectivement
une question à
Roger Federer Express, hein, c'était fait d'express sur une entrée très facile hein, pour Roger Federer en fait, 3-7 face à Sonego, 63e mondial, mais c'était un bon test, il l'a dit aussi hein, pour lui.
Oui, bien sûr, un très bon test parce que c'est un joueur qui est pas forcément connu du grand public, mais qui a gagné beaucoup de matchs sur terre battue depuis 2 mois. Un joueur dangereux, donc il en est content.
Et donc la sensation de la journée, hormis le retour de Roger Federer, c'est l'incroyable victoire de Nicolas Mahut, mené 2-7-0. Il élimine en 5-7 l'Italien Cecchinato, demi-finaliste ici l'an passé.
Comme vous le dites, c'est la surprise de la journée. C'est vrai que c'était assez incroyable d'être mené 2-7-0, d'arriver à retourner ce match. Voilà, avec tout le respect qu'on doit à Nico, c'est plus un jeune joueur. Même en simple, il joue plus
253e
beaucoup.
Voilà,
il joue plus beaucoup. Il a, comme on dit, il a coulé et il a réussi à retourner ce match alors que depuis maintenant un mois, 2 mois, il a des problèmes de dos. Donc vraiment, bravo, très grande et belle performance. Émouvante.
Oui, effectivement. Et autre qualifié, oui. Cyril, Kristina Mladenovic.
Effectivement, qui s'est imposée face à Fiona Ferro. Mais on rappelle la défaite de Venus Williams, hein, il y a quelques minutes, qui a donc été éliminée. Et puis, on va vous retrouver évidemment tout à l'heure, Angélique Kerber, l'Allemande, elle aussi n'a pas passé le premier tour.
Formule 1 maintenant, c'est Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Monaco.
Le pilote britannique a dominé de bout en bout cette édition monégasque. Le quintuple champion du monde a résisté malgré des pneus usés à Max Verstappen qui l'a accroché d'ailleurs lors d'une tentative de dépassement. Des pneus qui se sont vite dégradés, qui ont donné du fil à retordre au britannique. Lewis Hamilton sur Europe 1, au micro de notre envoyé spécial Frédéric Michel.
Ça a été un cauchemar pendant un long moment, mais je n'ai pas paniqué, j'ai essayé de rester au centre et de ne pas faire de faute. C'est la chose la plus difficile à faire, vous savez, en particulier quand vous n'avez pas les bons pneus. Nous n'avions pas monté les bons pneus et c'était la chose la plus compliquée.
Lewis Hamilton, sachez que Verstappen qui a reçu une pénalité finalement 4e, la 2e place revient à Sébastien Vettel. Parti du fin fond de la grille, le pilote monégasque Charles Leclerc a dû abandonner et le premier français c'est Pierre Gasly sur Red Bull. 5e.
Merci beaucoup Cyril Delamorinerie, c'était le journal des sports.
Europe 1.
Qui dirige désormais Cosa Nostra ? Pourquoi les prisons françaises sont-elles devenues des passoires ? Où trouve-t-on la cocaïne la plus pure ? C'est le genre de questions que pose et auxquelles répond le criminologue Xavier Offert dans son ouvrage « Le crime mondialisé », un ouvrage qui fait froid dans le dos. Il sera avec nous dans un instant.
18h-20h,
Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Vandel sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Et à présent, Philippe, vous recevez votre troisième invité avec des questions cruciales.
Qui dirige désormais Cosa Nostra? Pourquoi les prisons françaises sont-elles devenues des passoires? Où trouve-t-on la cocaïne la plus pure? C'est le genre de questions que pose et auxquelles répond le criminologue Xavier Offert dans son ouvrage « Le crime mondialisé » paru aux éditions du Cerf, un ouvrage qui fait froid dans le dos car il ne fait que donner des chiffres et des statistiques. Bonsoir Xavier Offert.
Bonsoir.
Vous avez sous-titré votre livre sur le crime mondialisé « État des lieux en 99 vérités ». Comment avez-vous recueilli ces chiffres que vous appelez des vérités?
Alors, c'est simple. 98% de ce qu'on a besoin d'avoir comme statistiques et comme chiffres est dans le domaine public, mais ce n'est naturellement pas au premier plan, ni à la première page des grands journaux. Il faut chercher dans les statistiques de l'ONU, dans les statistiques nationales, dans la foule des entités et des organisations internationales qui s'occupent tout ou partie d'affaires criminelles, et à la fin, on y arrive.
Et dans les statistiques de l'État français.
Bien entendu.
Alors vous écrivez dans la préface, le crime se globalise, il constitue en fait la face noire de la mondialisation dont l'emprise destructrice ne cesse de s'étendre avec des effets délétères qui vont en s'augmentant. Vous voulez dire que le crime progresse encore plus vite que la mondialisation?
Évidemment, c'est la première mondialisation qui s'est faite, c'est celle du crime. Je vais vous donner un exemple de ça. Quand le mur de Berlin est tombé, j'étais à l'Express. À l'époque, l'Express était à la place de l'Étoile. Une nuit, en sortant du bouclage à 3h du matin, juste sur la petite rue ronde, la rue Tilsit, là, qui fait le tour de l'Étoile, on voit trois pépés absolument sensationnels. Et puis quand on s'approche pour aller prendre notre taxi, elles parlaient russe. Trois semaines après la chute du mur de Berlin, il y avait des prostituées russes sur les Champs-Élysées. Eh ben, la mondialisation des gentils, celle des policiers luttant contre la prostitution et le proxénétisme, j'ai demandé au préfet de police, elle a mis 3 ans à se faire. 3 semaines dans un cas, 3 ans dans l'autre, vous voyez, c'est ça, la mondialisation du crime.
Alors je vais le dire, c'est un livre absolument passionnant qui est construit avec 99 chapitres très très courts. Certains font 3 pages, certains font 5 ou 6 lignes. Tiens, puisque j'en ai parlé, puisque c'est votre intro, où trouve-t-on la cocaïne la plus pure?
En Europe, en Grande-Bretagne. Au deuxième plan, la France.
Et alors, j'ai appris par vous que la cocaïne s'améliore en France.
Oui, exactement. On se fait moins rouler. Mais vous savez...
Parlez pour vous, hein, moi j'en achète pas.
Non. Mais moi je suis un savant, je ne touche pas à ces choses-là.
Chapitre 13, vous dénoncez les chiffrages douteux du ministère de l'Intérieur français. Par exemple, j'ai relevé ça, selon les chiffres officiels, il y a en France environ 9000 vols par an avec armes, hold-up, braquage. Et vous-même, vous en comptez plus de 10 000. Pourquoi cette différence?
Il y a un tripatouillage. Le tripatouillage, il se fait à 2 niveaux. Premier niveau, quand on envoie un policier sur le terrain constater qu'il y a eu un vol à main armée, il revient et puis il remplit une fiche sur un ordinateur. Mais c'est pas lui qui a le dernier mot, c'est le patron du commissariat. Et il peut choisir de faire entrer le braquage en question dans la catégorie des délits et dans la catégorie des crimes. Si c'est un crime, naturellement, ça passe à la cour d'assises.
Ouais.
Et vous savez combien ça coûte un procès d'assises? Un seul,
dites.
Ça coûte 600 000 euros.
À la collectivité?
À la collectivité, au ministère de la Justice. Ce qui fait qu'on essaye de limiter autant que possible le nombre des braquages qui sont traités comme crimes. Et c'est la raison pour laquelle on en fait glisser beaucoup dans les délits et qu'il y en a quelques milliers qui disparaissent par an.
Autre oubli du ministère de l'Intérieur, il dénombre 246 000 cambriolages de logements personnels ou de résidences principales. Et là, vous écrivez, Xavier Loffert, où sont donc comptabiliser les cambriolages des résidences secondaires, des locaux professionnels, agricoles, des hangars, les pillages de caves, de greniers et les tentatives de cambriolage? Pourquoi l'Intérieur ne les publie-t-il pas spontanément? C'est une bonne question. Pourquoi?
Eh ben, j'en sais rien. Je le constate.
Mais c'est votre métier.
Je le constate, oui, mais...
Quand vous appelez les gens qui s'occupent des statistiques, parce que qu'on se fasse cambrioler sa maison de campagne ou sa maison principale, c'est le même préjudice.
D'autant plus que les autres cambriolages, ceux hors résidence principale, c'est 40% du total. Alors voilà, ça porte un nom, ça signifie qu'on balaye la poussière sous le tapis, quoi. Mais c'est sans doute dans une volonté de ne pas publier des chiffres dramatiquement plus élevés, parce que si on compare avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne, qui sont en Europe les deux pays qui ont à peu près la même taille que la France, grosso modo, qu'on ne peut pas comparer avec le Liechtenstein, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même avec la vague de migrants en Allemagne, beaucoup moins de cambriolages qu'en France. Donc ils ne sont pas très fiers d'eux et ils essayent d'en occulter une partie.
Rapport avec l'actualité immédiate, l'explosion à Lyon dont le suspect court toujours, vous consacrez un chapitre au terrorisme en Europe et vous étonnez que l'organisme européen Europol classe les malfaiteurs en 2 catégories distinctes, une case pour le crime organisé et une autre case pour le terrorisme. Or, vous dites que cette classification n'a plus un grand rapport avec le réel et vous parlez des hybrides. Qui sont les hybrides ?
Les hybrides, ce sont ceux qui, simultanément et par construction, sont des voyous et qui ont basculé dans le fanatisme et dans le terrorisme.
Par exemple, Mohamed Merah.
Mohamed Merah, exactement.
Ou les frères Kouachi.
Exactement. Tous, chaque fois que le sang a coulé en France, depuis 2012 et depuis justement Mohamed Merah, on a affaire à des hybrides, c'est-à-dire à des petits voyous qui ont été réislamisés, qui ont plongé dans le fanatisme. Une seule exception sur les 22 ou 23 cas, mais à 95%, les hybrides sont maintenant les terroristes les plus dangereux.
Autre chiffre que j'ai trouvé dans votre livre, pas politiquement correct, selon Europol, le crime organisé contrôle 90% du trafic de migrants clandestins vers l'Union européenne pour un chiffre d'affaires annuel compris entre 3 et 6 milliards d'euros. 90% vraiment ?
Ah oui. Oui.
Alors, je veux dire, le sens de ma question, c'est que j'ai lu des dizaines d'articles sur le sujet, j'ai vu des dizaines de reportages où l'on expliquait que les migrants étaient des particuliers, des réfugiés économiques, ou alors qui fuyaient la dictature de leur pays. On n'avait pas l'impression que c'était une mafia qui s'occupait d'eux pour gagner des milliards.
Mais que les migrants eux-mêmes soient dans la situation que vous décrivez, c'est généralement sûr. Sauf qu'un certain nombre d'entre eux choisissent naturellement la migration pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour essayer de gagner leur vie en Europe alors qu'ils n'y arrivent pas dans leur pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans le cas de l'Italie, je vais vous révéler là une information qui n'est pas publique, les gangs qui contrôlent le trafic de migrants sont si dangereux et si bien structurés et si riches que maintenant, en Italie, c'est les unités spéciales de la police et de la gendarmerie qui s'occupent de la mafia, qui s'occupent aussi, en même temps, de ces gangs de migrants. Comment voulez-vous que des individus isolés traversent seuls des déserts immenses ? Il faut une logistique, il faut des camions, il faut des réserves d'eau, il faut des points d'eau, il faut des carburants, etc. Et vous avez remarqué, à partir du moment où l'Italie ferme la porte, hop, 15 jours après, ils sont tous à la frontière entre le Maroc et puis l'Espagne. Comment ce changement de pied, si vous voulez, est-il possible pour des centaines ou des milliers d'individus si vous n'avez pas une organisation derrière ?
Alors, il y a dans votre livre des chiffres qui concernent peu le tout venant, par exemple le trafic d'héroïne entre les continents, mais il y a également un chapitre très concret sur les vols de vélos en France. 1076 vélos volés chaque jour, ça fait 400 000 par an, ou alors un vélo par minute. En quoi cette statistique est-elle passionnante ? C'est que, je l'apprends grâce à vous, 20% des victimes de vols renoncent au vélo. Et donc, ça change quelque chose pour l'environnement.
Bah évidemment. Les crimes commis à grande échelle ont une conséquence économique, ont une conséquence sociale. Et on ne se rend pas compte. Mais des fois, le crime organisé est bien plus dangereux et bien plus mortel que les affaires de terrorisme.
Juste un mot, pardon. Le vol de vélo, c'est du crime organisé ?
Bah évidemment. Ce sont des gangs, généralement de nomades, qui font ça.
Ah oui, moi je me souviens que Martine Aubry appelait ça des petites incivilités.
Oui, ben elle est un peu comme ça, politiquement correcte, la dame. Ce que je voulais vous dire aussi, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien, c'est que, par exemple, le trafic d'armes sur le continent africain, d'armes qu'on appelle légères, vous savez, des Kalachnikovs, etc., tous les 3 ans, un Hiroshima. 50 000 morts par an, 150 000 morts en 3 ans. Un Hiroshima tous les 3 ans.
On va conclure. En 2015, selon l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, le chiffre d'affaires mondial du crime organisé et du commerce illicite issu de divers trafics représente 870 milliards de dollars, ce qui fait 1,5% du produit brut mondial. Alors c'est énorme, mais on peut également se dire que ça fait 88,5% du produit brut mondial qui est parfaitement légal.
Alors on ne peut pas dire ça comme ça, parce que l'argent, il est stratégique ou il est anomique. Les 88% du commerce légal, il appartient à une infinité de gens. Il appartient à des milliards. Chaque fois que vous achetez une banane ou n'importe quoi, à ce moment-là, c'est comme il y a import ou export, c'est statistiquement compté. Mais l'argent du crime organisé, même s'il est 1 ou 2 ou 3%, il est stratégique, c'est-à-dire qu'il est entre les mains d'individus très rares. Et d'énormes masses d'argent comme ça entre les mains de rares individus, ça peut faire capoter une banque. Ou alors, on l'a vu dans le cas de la Thaïlande, on l'a vu dans le cas du Mexique. Vous avez remarqué ce qui s'est passé les dernières années quand il y avait des banques qui s'écroulaient? C'était toujours dans des pays qui étaient au débouché des routes de la drogue, la Thaïlande et le Mexique.
Alors tous ces chiffres font peur et pourtant vous dites avoir l'impression de prêcher dans le désert, je vous cite, « contrairement aux considérations environnementales et au réchauffement climatique, cette question, à savoir le crime globalisé, ne provoque pas une mondialisation internationale des consciences. Son extrême gravité est pourtant certaine. Comment l'expliquez-vous ? D'où vient ce déni des dirigeants politiques à travers le monde ?
Bien, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes dans le cadre d'une mandature. Et donc, à partir du moment où ça demande 10 ou 15 ans, ils disent « je vais porter la patate chaude » et une fois qu'elle aura refroidi, c'est plus moi qui la porterai. Donc, ils hésitent à s'engager dans des croisades à long terme et il est très rare qu'ils y arrivent.
Le crime mondialisé, état des lieux en 99 vérités, ça sort mercredi aux éditions du CERF. Vous en êtes l'auteur, Xavier Hoffer. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, le début de la grande soirée spéciale élections européennes jusqu'à 20h. Et aux premières estimations, on va revenir sur la participation en hausse de ce scrutin avec nos invités et nos correspondants partout en Europe et au ministère de l'Intérieur. Ne bougez pas, les européennes sur Europe 1, c'est jusqu'à 23h.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Europe 1. Dans une minute, il sera 19h30. C'est le début de notre soirée spéciale élection européenne, Philippe Vandel.
Une grande soirée qui va durer jusqu'à 23h30. Raphaël Duchemin nous rejoindra. Elle va vous accompagner à partir de 20h. Mes invités en studio ici, Édouard Le Serre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut BVA. Vous arrivez avec tous vos documents, vos tablettes, vos portables et vos 06. Michael Darmon, bonsoir.
Bonsoir.
Pareil, vous êtes en train de lire les dernières informations. Ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, car le CSA veille à l'équité du scrutin, il a raison. Et je voudrais qu'on aille tout de suite au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, avec Salomé Legrand. Bonsoir Salomé.
Bonsoir.
Grosse surprise quant à la participation.
Eh oui, avec ce taux de 43,29% à 17h, bien au-delà des projections de ces derniers jours, mais aussi au-delà des précédents scrutins. Alors, évidemment, on ne dépasse pas les taux de participation présidentielle, 69% à 17h au premier tour de 2017, mais en revanche, la participation aujourd'hui dépasse celle de tous les précédents scrutins européens depuis le milieu des années 90. On est au-dessus non seulement de la participation à 17h en 2014, mais même de la participation total à 20h il y a 5 ans, presque un point au-dessus. Et enfin, c'est au-delà de la participation au premier tour des législatives de 2017. Dans le détail, les plus fortes hausses entre plus 15 et plus 19 points sont pour les départements de l'Ain, du Rhône, la Côte d'Or, les Hautes-Alpes et le Pas-de-Calais.
Merci beaucoup Salomé Legrand. Si on extrapole, on pourrait arriver à une participation au-dessus de 52,2% si on croit à BVA et 54% pour l'IFOP. Je me tourne vers vous Édouard Le Serre, vous êtes directeur général adjoint de l'Institut BVA, c'est ce que vous avez, ce sont vos chiffres.
Ce sont les chiffres qui sont assez largement partagés ce soir. C'est vrai que, alors, on parle de surprise. La surprise, c'est par rapport à ce qu'on avait dit pendant la campagne.
J'allais vous demander ça. Voilà. Aviez-vous vu, dans tous les indicateurs, secrets ou non, cette mobilisation en hausse ?
Alors, pas secret, les indicateurs. On les a d'ailleurs partagés avec Europe 1, puisqu'on avait fait un certain nombre d'intentions de vote avec Europe 1. Et les dernières, je vous avoue qu'on a presque été surpris lorsqu'on a vu arriver les chiffres avec une participation qui était plus forte et sensiblement plus forte que ce que l'on avait mesuré les fois précédentes, comme s'il y avait une mobilisation de dernière ligne, une capacité des électeurs à se dire « tiens, finalement, le scrutin est important ». Finalement, les différents enjeux, qu'ils soient européens, qu'ils soient entre les différentes listes, selon le niveau des listes, qui va arriver en premier, les enjeux pour la France, comme si tous ces éléments-là avaient convaincu un certain nombre. Un certain nombre, c'est quand même pas loin de 4 millions de plus que par rapport aux précédentes élections européennes, donc ça fait beaucoup de monde. Alors, il faut quand même raison garder. On est quand même à 52% de participation, 52, 51, 53. On est quand même sur une participation qui reste faible pour eux, ce qui est en général un vote en France. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est presque une divine surprise, qui d'ailleurs est assez cohérente avec ce qu'on entend et ce qu'on lit sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Et donc ça, ce sera aussi intéressant avec la participation simplement de la France ce soir et de l'Allemagne ce soir. Déjà au niveau européen, vu le poids démographique de ces deux pays, eh ben on sait qu'il y aura une participation supérieure sur l'ensemble des 28 pays européens.
On va bientôt prendre la direction de l'Allemagne à Berlin avec Hélène Kohl. Un mot, Michael Darmon. Est-ce que cette forte mobilisation peut s'expliquer par l'arrivée, la présence et, du président Macron dans la campagne ou pas du tout ? Ou est-ce que j'extrapole tout seul ?
Eh bien écoutez, ça, effectivement, on le verra ce soir quand on aura les résultats. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on constate que cette mobilisation en hausse confirme bien que l'enjeu européen depuis l'élection présidentielle posée effectivement au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron et ensuite déroulée avec tous les événements qui ont secoué l'Europe, on l'a vu, la montée des gouvernements populistes, les problématiques liées au climat, les traductions nationales des enjeux européens et la manière dont l'Europe également dirige s'invite également dans la organise la vie donc des citoyens sur le continent. Tout cela, on a compris que l'Europe était maintenant intégrée comme une notion vraiment importante et sensible et concrète pour le citoyen français. C'est la raison pour laquelle cette élection a une mobilisation en hausse, d'autant plus qu'on a vu également que c'est le premier rendez-vous électoral après le mouvement important des Gilets jaunes que l'on connaît depuis plusieurs mois. Et très certainement, cela aura aussi une influence.
Et alors justement, Salomé Legrand le disait, les départements où la participation est en forte hausse, il y a l'Ain, le Pas-de-Calais, la Côte d'Or, les Hautes-Alpes, c'est un peu la France périurbaine des Gilets jaunes, non, Édouard Le Cerf?
En tout cas, c'est sûr que dans tous les états-majors, depuis 12 heures...
Ce ne sont pas les grandes villes, ce ne sont pas les grandes métropoles.
Alors, il peut y avoir des grandes villes dans des départements qui sont un peu éloignés de Paris, ça c'est sûr, mais c'est certain que depuis 12 heures et 17 heures, dans les états-majors, on doit être en train de décrypter, d'analyser, de regarder, de dépouiller, de voir les variations, de se dire, tiens, voilà, et pas forcément uniquement au niveau des départements, parce qu'on descend en général au niveau plus fin, jusqu'au bureau de vote, pour voir qu'est-ce qui a pu bouger, qu'est-ce qui a pu faire qu'un certain nombre d'électeurs se sont surmobilisés. Chacun y va avec son interprétation à ce stade. Chacun va voir potentiellement soit l'oracle positif, soit effectivement la mauvaise augure, en regardant les choses et en se disant, mon Dieu, les départements où la participation progressait sont justement ceux pour lesquels il y avait un certain nombre de votes en faveur de l'un ou de l'autre. On ne peut pas encore dire quelle tendance, mais en tout cas, c'est vrai que tout ça est regardé à la loupe, disséqué. Mais naturellement, maintenant, c'est à 20h que chacun va se mettre devant ses écrans et se demander, ou devant son poste de radio, et se dire, voilà, maintenant, c'est ça la réalité. Donc oui, c'est décrypté, c'est analysé, mais les jeux sont faits.
On va prendre la direction de Berlin maintenant avec notre correspondante Hélène Kohl. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Vous êtes au siège de la CDU. En Allemagne, vous avez déjà des estimations.
Oui, effectivement, et ce qui fait la sensation ici, c'est le score attendu des écologistes, donné actuellement 1h30 après la clôture des bureaux de vote, entre 20 et 22%. Premier parti de gauche devant le SPD, il s'impose comme la vraie alternative à la coalition au pouvoir. C'est une force incontournable au centre, progressiste, pro-européenne, qui fait un carton chez les jeunes Allemands. Un Allemand de moins de 30 ans sur 3 a voté pour les Verts. Ils prennent des voix à tous les partis, autant à droite qu'à gauche. La question climatique a en fait dominé la campagne électorale ici et cela se reflète dans les premiers chiffres que nous avons dans un contexte de forte hausse de la participation électorale. Ici aussi, 60% des Allemands sont allés voter. Et donc, score historique pour les Verts. En revanche, douche froide pour les partis au pouvoir, la fameuse grande coalition d'Angela Merkel qui paraît bien petite a priori ce soir. Les conservateurs et les sociaux-démocrates sont en fort recul. Le SPD enregistre le pire score de son histoire, en même temps que la perte de son bastion de Brême, puisqu'il y avait aussi des élections régionales aujourd'hui là-bas. Ouais. La CDU-CSU reste en tête, mais elle perd tout de même 7 points. Il y a clairement une lassitude des électeurs allemands pour le modèle de Merkel. Un dernier mot pour vous parler de l'extrême droite, en recul.
Voilà, oui, l'AFD, à l'heure où on disait que les populistes progressaient un peu partout en Europe, est-ce que c'est le cas en Allemagne?
Alors, l'AFD est autour de 10% actuellement à ce moment de la soirée. C'est une petite progression par rapport à il y a 5 ans, mais il faut dire qu'il y a 5 ans, le parti était tout juste né quelques mois avant. Il faudrait comparer en fait avec les législatives de septembre 2017. L'AFD avait fait 12,6%. Ce soir, on est autour de 10%.
Merci beaucoup Hélène Kohl, en direct du siège de la CDU à Berlin, en Allemagne. Je me tourne vers vous, Claudia Bertram. Est-ce qu'on a des chiffres au niveau européen?
Oui, alors les premières estimations sont tombées, notamment en Autriche, où c'est le parti conservateur du chancelier Sébastien Kurz qui arriverait largement en tête, avec environ 34,5% des voix, devançant les sociaux-démocrates qui, eux, arriveraient à 24% des suffrages. Le FPO, le parti d'extrême droite touché récemment par le scandale de Libizagate, est lui crédité de 17,5% des suffrages. En Grèce aussi, le gouvernement de Syriza n'arriverait qu'en deuxième place avec 27% des voix contre 34% environ pour le centre droit mené par Nouvelle Démocratie. On a aussi des données à Malte où les premières estimations donnent les sociaux-démocrates en tête avec 55% des voix. Selon les sondages de sortie des urnes, le parti nationaliste obtiendrait pour sa part 37% des voix. Et selon ces résultats, Malte enverrait au total 6 députés au Parlement européen. En Irlande, c'est le centre droit qui serait en tête avec 29% des voix. Derrière, 3 partis sont donnés à 15%, le centre, les Verts et les indépendants. Enfin, à Chypre, les conservateurs seraient largement en tête avec plus de 31% des voix. Ils devancent le parti progressiste des travailleurs qui lui obtiendrait 26% des voix et le Parti démocrate qui, lui, obtiendrait un peu moins de 12% des voix. Et puis aux Pays-Bas, on en a déjà beaucoup parlé, le vote a eu lieu jeudi et ce sont donc les travaillistes qui seraient en tête avec plus de 18% des voix.
Et là encore, c'était une surprise. Merci beaucoup, madame. Vous vouliez dire un mot, Michaël Darmon, très vite.
C'est vrai que c'est intéressant d'abord de consulter sur l'ensemble des résultats en agrégé ce qui va se passer donc en Europe, mais c'est vrai aussi, et en ce moment même, ce qui nous parvient, tous les états-majors sont en train d'analyser au plus près les résultats et il y aura des surprises ce soir.
Des surprises. Juste après ça, on va partir à Londres, on va partir à Rome, on va retourner au ministère de l'Intérieur, toujours avec nos invités en direct sur Europe 1, Michaël Darmon, Édouard Le Cerf, juste après ça.
Européenne 2019 sur Europe 1. Europe 1.
Européenne 2019.
Jusqu'à 20h avec vous, Philippe Vandel et vos invités. On parle bien sûr de ces élections de ce dimanche.
Avec Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de BVA, Michaël Darmon, journaliste politique d'Europe 1. On va prendre la direction de Londres avec notre correspondante Anaïs Cordoba. Mais d'abord, Olivier Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présentateur de l'émission Mediapolis sur Europe 1. Et vous, ce qui vous a frappé, c'est la surprise de la montée de la participation, non seulement en France, mais également en Europe.
C'est très intéressant parce que ce sont peut-être les premières élections véritablement européennes, avec évidemment quelques spécificités nationales ici et là. Mais on va s'apercevoir qu'il y a eu des éléments communs très forts. Et le premier élément commun dont on peut parler, parce qu'il est vrai et vérifié pratiquement dans tous les pays européens, c'est une hausse considérable de la participation. Mmh. Pour la France, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que sur ce point, les sondages se sont trompés. Ils ont annoncé 44% de participation. Si on est à 54%, ils se sont trompés de 10 points, ce qui est considérable. Ce qui veut dire qu'ils se sont, entre guillemets, trompés aussi sur autre chose. Donc on aura forcément surprise à 20h, puisque les choses ne se passent pas comme on nous les avait annoncées. Et ça, c'est assez passionnant.
Vous êtes politologue, Olivier Duhamel. Vous êtes en direct de Sciences Po. Europe 1 présente une soirée ce soir.
Oui, on a une soirée européenne. Il y a un monde fou. On a été obligé d'ouvrir un amphithéâtre annexe. Les gens sont... C'est la vraie soirée européenne, dans le sens que c'est la première fois, je pense, même dans l'histoire des élections européennes, qu'on fait une soirée avec des universités à travers l'Europe qui sont en partenariat, en duplex avec nous jusqu'à minuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on s'aperçoit aussi... Bon, on ne va pas parler de ce qui va se passer à 20h, mais ce qui est sûr, je le répète, c'est qu'à 20h, il y aura une surprise. Et la surprise, c'est très simple. Il y a trois surprises possibles en théorie. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais soit vous avez une poursuite d'une dynamique Front National, Rassemblement National, et un très, très grand score national, Front National, soit vous avez un sursaut pour En Marche et vous avez une surprise de ce côté-là, soit il y a une troisième surprise, c'est que quelqu'un d'autre fasse beaucoup plus de voix que prévu. Donc ça, et ces surprises, elles ont lieu presque partout en Europe. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Hélène Kohl qui vient de vous l'annoncer, il y a eu un résultat incroyable des Verts en Allemagne. Il y a eu une surprise des sociaux-démocrates aux Pays-Bas. Il y a des surprises absolument partout, ce qui veut dire que les électeurs sont allés voter, ils sont allés voter comme ils en avaient envie et pas comme les sondages leur annonçaient qu'ils allaient voter.
Merci beaucoup Olivier Duhamel. Michaël Darmon, vous vouliez dire?
Oui, c'est vrai, pour poursuivre ce que vient de dire Olivier Duhamel, il y a ceux qui ont peut-être voté, pour lesquels on a voté plus que prévu, et ceux pour lesquels peut-être on va peut-être voter moins que prévu. Et effectivement, les surprises seront effectivement au menu ce soir, parce qu'on verra dans quelle mesure ce scrutin est ou n'est pas la réplique de 2017 et dans quelle mesure le dégagisme continue à faire son œuvre d'une certaine manière.
Et la surprise, je vais remercier Olivier Duhamel, et la surprise également, il y a plus de monde que prévu dans votre opération à Sciences Po. Je vous dis bravo, je vous dis bonne soirée, la soirée continue. On va prendre la direction de Londres maintenant avec notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Alors en Grande-Bretagne, c'est un peu particulier parce que non seulement vous n'avez pas de sondage sorti des urnes, mais vous n'avez même pas de chiffre de participation.
Oui, effectivement, pas de sondage sorti des urnes. Il va falloir attendre 23 heures avec les premiers résultats qui vont commencer à tomber. Par contre, pour les chiffres de participation, je peux vous dire que selon des premiers dépouillements partiels, la participation serait en légère hausse par rapport à 2014 au Royaume-Uni. En 2014, elle était de 34,2%. Mais attention, cette information reste à confirmer avec la publication des résultats ce soir. On verra donc si les Britanniques se sont mobilisés, sachant qu'ici, tout l'enjeu de cette élection, c'était le Brexit.
Exactement. Alors, la montée en force des petits partis pro ou anti-européens dans la campagne, qu'est-ce que ça donne si tant est qu'on puisse tracer une photographie dès maintenant ?
Alors effectivement, donc, cette montée en force, il y a eu une montée en force des petits partis pro ou anti-européens qui ont en quelque sorte rejoué une mini-campagne hein, du référendum de 2016. Et selon les sondages, eh bien, ce seraient eux les grands gagnants de cette élection, avec notamment le Brexit Party de l'eurosceptique Nigel Farage, qui est donné premier pour l'instant par les derniers sondages, avec un potentiel score de 30% ou plus. Il faut noter que ce parti il s'est créé à peine un mois avant le coup d'envoi de cette élection. Les deux grands partis traditionnels, les conservateurs et les travaillistes, eux, s'attendent à de très mauvais résultats. C'est la conséquence de leur incapacité à mettre en œuvre le Brexit. Les conservateurs, donc le parti au pouvoir, s'attendent à une défaite cuisante. Ils pourraient réaliser leur pire score depuis la création du parti en 1834.
Est-ce que la campagne européenne a été très suivie ou éclipsée par la démission annoncée de Theresa May ?
Non, alors la campagne a été très suivie avec, on l'a vu, la mobilisation des eurosceptiques vers le Brexit Party de Nigel Farage qui a connu une grande poussée hein, dans les sondages ces derniers jours, la démission de Theresa May et on peut dire en quelque sorte une conséquence hein, de cette montée en force du Brexit Party et des conservateurs qui ont très peur de perdre des électeurs qui iraient vers ce Brexit Party.
Une question qu'on se pose ici, vu de la France, est-ce que les candidats étaient connus des Britanniques ? Est-ce qu'il y avait des têtes d'affiche. Je précise qu'on sait que les députés élus vont devoir de fait quitter le Parlement européen si jamais ils y vont à cause du Brexit qui se profile. Est-ce qu'on a envoyé des seconds ou des troisièmes couteaux ou est-ce que c'était des gens connus et qui ont marqué les esprits ?
Alors, il y a quelques personnes connues, comme Nigel Farage, hein, qui est un eurodéputé eurosceptique, qui est donc candidat pour le Brexit Party. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus dans cette campagne, notamment à cause de la création de nouveaux partis, comme le Brexit Party, je l'ai dit, qui s'est créé à peine un mois avant le coup d'envoi de cette élection, et Change UK, qui est le parti pro-européen, et qui donc avait des personnes totalement inconnues du grand public.
Merci beaucoup. En direct de Londres, Anaïs Cordoba. Merci. Bonsoir Anaïs. Vous voulez dire quelque chose, Michel Darmon ?
Oui, c'est vrai qu'on va bien sûr beaucoup regarder ce soir les enjeux nationaux de cette élection européenne. Mais bien évidemment, dès demain, tout va basculer également sur Bruxelles parce que des processus issus de ce scrutin vont démarrer sur, bien entendu, les accords de coalition à l'intérieur du Parlement pour pouvoir faire une majorité. Hein, il y a 800 députés, il va falloir donc trouver effectivement les accords en fonction des résultats de chaque pays. Et puis ensuite, bien sûr, les tractations qui déjà ont commencé, mais qui vont bien évidemment s'accélérer pour donc la composition de la nouvelle Commission européenne avec évidemment les personnes qui la dirigeront, les commissaires et la présidence. Donc en fait, une autre élection commencera bien évidemment beaucoup plus loin des projecteurs et des regards, mais qui sera pas moins importante et qui commence en fait ce soir.
Édouard Le Cerf.
Oui, Olivier Duhamel disait tout à l'heure, sans doute emporté par l'enthousiasme de la grande affluence à son événement à Sciences Po, que c'était peut-être la première vraie élection européenne. Alors, il est peut-être allé un peu vite en besogne. Ceci dit, c'est vrai que vraisemblablement, demain, ce sera le moment de se poser, d'analyser et de regarder les résultats. En regardant dans chacun des pays ou des principaux pays où, naturellement, sans doute comme en France, la question des enjeux nationaux ont sans doute un peu dominé le débat, ou en tout cas ont tenté de dominer le débat. En France, on a eu effectivement cette montée en puissance d'un duel potentiel avec les enjeux nationaux tout à fait au centre. Il faudra regarder quels sont les éléments transversaux, quels sont les éléments qui vont avoir structuré les votes. Parce que là, on est peut-être pas encore à avoir une élection réellement européenne, mais des vrais sujets transversaux européens dont s'emparent les électeurs à l'occasion de ces élections-là et qui se retrouvent effectivement à faire ce qu'est finalement le but de cette élection européenne, c'est-à-dire d'envoyer à Bruxelles et à Strasbourg des personnes qui vont travailler ensemble sur des sujets très concrets sur lesquels ils vont faire avancer les choses. Donc là, on a quelque chose qui peut être en train de commencer à se passer.
La soirée européenne électorale continue sur Europe 1. Nous sommes allés en Angleterre, nous sommes allés en Allemagne. Nous allons aller dans la troisième grande capitale européenne, à Rome, avec Jean-Sébastien Soldaini. Dans un instant, restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1.
Européenne 2019 sur Europe 1. Europe 1, Européenne 2019.
En prélude à cette grande soirée électorale hein, qui va durer jusqu'à 23h ce soir sur Europe 1, on analyse et on décrypte avec vous Philippe Vandel, vos invités et les correspondants d'Europe 1.
Avec Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut BVA, Michel Darmon avec nous, journaliste politique d'Europe 1 et notre envoyé spécial à Rome, Jean-Sébastien Soldaini. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Les Italiens votent et ils vont continuer à voter jusqu'à 23h ce soir. Qu'est-ce qu'on attend ici ? Comment, si tant est que je puisse dire les choses comme ça, et l'ambiance ? A-t-on déjà des premiers sondages sortis des urnes ?
Non, il n'y a aucun sondage sorti des urnes ici. Il n'y aura rien jusqu'à 23h parce que vous l'avez dit, ils votent jusqu'à 23h. Donc les premières estimations, ce ne seront même pas des résultats, arriveront aux alentours de 23h. Pour ce qui est de l'enjeu, ici, c'est de voir le niveau de popularité de la Ligue, l'un des deux partis au pouvoir emmené par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Avec son discours anti-migrants, anti-Union européenne, il s'agit de voir combien sa formation souverainiste pèse face à ses alliés d'extrême-gauche de la Ligue 5 étoiles. C'est un peu, vous savez, le mariage de la carpe du lapin ici en Italie.
Parce qu'il se présente, pardonnez-moi, je vous interromps, il se présente aux européennes en ordre dispersé, chacun sa liste.
Chacun sa liste, ils sont alliés au gouvernement, mais là, ils ont effectivement chacun sa liste. Et le score de Salvini pourra aussi peser dans la composition du futur Parlement européen. Il n'y a pas que l'enjeu local. Parce que Salvini, il se voit à la tête du groupe Europe des Nations et des Libertés, le groupe où siège notamment le Rassemblement National, le FPE autrichien, l'Alliance des droites dures, que Matteo Salvini espère voir à la troisième place ce soir. La campagne a beaucoup tourné autour de sa personne, si bien que les quelques électeurs à qui j'ai parlé aujourd'hui n'hésite pas à se dire que ce scrutin, eh bien, il est presque devenu un référendum pour ou contre l'Union européenne.
Les sondages disaient quoi, Jean-Sébastien ?
Alors là aussi, c'est une autre particularité de l'Italie, c'est que depuis deux semaines, c'est interdit de publier des sondages. Donc les derniers sondages datent d'il y a 15 jours, donc les électeurs, ceux qui se décident au dernier moment n'ont pas pu se baser là-dessus, souvent ça peut influencer les électeurs. Les derniers sondages donnaient la Ligue de Salvini en tête devant le mouvement 5 étoiles qui lui sera au coude à coude avec le centre-gauche.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini en direct de Rome pour Europe 1. Je me retourne vers vous Édouard Le Serre, voyez, opiner du chef à ce que disait Jean-Sébastien Soldaini. Déjà, ça vous déplaît que les sondages soient interdits pendant deux semaines?
Non, je ne sais pas que ça me plaise ou ça me déplaise. Il y a des variations assez importantes selon les différents pays sur la capacité à pouvoir publier des sondages. Des sondages qui ne sont pas publiés, non pas que ça me plaise ou ça me déplaise, ça veut dire qu'il y avait des sondages qui continuaient à être réalisés.
Bien sûr.
C'était simplement pas partagé avec le public. En France, vous vous souvenez, il y a encore quelques temps, on va dire début des années 2000, c'était une semaine d'interdiction de publication des sondages. Maintenant, on est à 24 heures, alors on peut le regretter, on peut trouver que c'est bien, c'est très bien. En tout cas, c'est vrai que ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. En Italie, c'est cette zone complètement neutre, en tout cas, qui ne permet pas d'élaborer. On va voir ce soir si les sondages publiés jusqu'au dernier moment en France permettront d'être au plus près de ce que sera la réalité qu'on nous annoncera vers 20h.
Si je vous ai bien suivi, et je sais que vous connaissez les chiffres, mais qu'évidemment, vous n'avez pas le droit de les dire, je m'attends à des surprises. À Londres, pardonnez-moi, à Berlin, Hélène Kohl parlait d'enjeux écologiques. Jean-Sébastien Soldaini parlait du discours anti-migrants en Italie. Est-ce que cela peut être des enjeux transnationaux dont vous parliez, Édouard Le Serre, à l'échelle de l'Europe? Est-ce que c'est ce que vous appelez
oui,
et qui pourrait réunir des majorités ensuite à Bruxelles et à Strasbourg?
Il y a ça. Il y a un autre élément aussi. C'est qu'on a vraisemblablement maintenant au sein des électorats, alors peut-être en France ce soir, on le verra tout à l'heure, mais aussi ailleurs en Europe, deux types de motivations extrêmement différentes selon les électorats. C'est-à-dire que ça n'est pas comme si chacun s'est décidé d'aller voter pour les mêmes enjeux, pour les mêmes choses. Et l'élection européenne offre une surface assez idéale pour cela. Un certain nombre d'entre eux, d'électeurs, vont dire « Eh bien, moi, je vais voter pour ou contre l'Europe. Je vais voter, effectivement, pour créer quelque chose en Europe. » Et d'autres vont dire « Mais c'est le moment d'exprimer quelque chose pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie. » Donc, on voit bien qu'il y a une forme de tension. Mais c'est un cumul potentiel de deux motivations complètement différentes qui, au final, fait que ce soir, on a un peu plus de participation.
Michael Darmon.
Et oui, ce qui est frappant aussi, c'est que dans cette campagne, il a été décidé qu'elle serait un peu une redite, en tout cas décidée par Emmanuel Macron, qu'elle serait une redite de la campagne présidentielle.
Du deuxième tour.
Et de ce point de vue-là, de ce face-à-face donc, entre le Marine Le Pen, donc RN aujourd'hui, représenté par sa tête de liste, et la tête de liste aujourd'hui de La République En Marche Renaissance, et que ce match qui a été posé comme étant vraiment la matrice de la campagne européenne a considérablement aussi fait monter la tension, a nationalisé le débat, paradoxalement a fait qu'on a peut-être moins parlé des sujets européens, parfois aux grandes dames, de ceux qui voulaient les porter, mais enfin, la décision avait été aussi de nationaliser, de politiser beaucoup ce scrutin, parce que c'est le premier scrutin national depuis 2017, parce que c'est important pour effectivement l'exécutif de pouvoir valider les options, valider toute la politique menée depuis deux ans, et sachant qu'il y a cette puissante résonance de cette contestation depuis des mois avec le mouvement des Gilets jaunes, qui certainement, d'une manière ou d'une autre, on va le voir, va matricer les résultats qui nous parviennent actuellement.
Sans faire de politique fiction, est-ce que vous pensez qu'en cas d'énormes surprises, ce qui se passe ce soir à l'échelle française pour les élections européennes, on élit des députés européens, mais peut changer, peut redimensionner le paysage politique français à partir de demain lundi?
Alors d'abord, parler d'une énorme surprise, ça voudrait dire une surprise par rapport à ce qu'on s'attend à voir sur la base des sondages, ou alors en regardant le paysage politique tel qu'il a été dessiné par la dernière présidentielle ou les élections législatives. Il n'y aura pas vraiment, on va dire, une surprise, c'est par rapport à un résultat attendu. Non, demain, la politique française ne va pas s'arrêter, ne va pas repartir dans un sens complètement différent. De toute façon, le pouvoir en place a décidé et a dit que ça ne changerait rien. Et d'ailleurs, constitutionnellement, il n'y a aucune raison pour que ces élections, qui sont là pour élire des députés européens, aient un impact, on va dire, directement constitutionnel sur la manière de faire. Alors, ben ça, il y a un impact politique, il y a un impact médiatique, il y a un impact sur la manière dont les opinions vont se structurer et vont appréhender chacune des choses qui sera dite par l'un ou l'autre camp politique. Oui, bien sûr, chacun va y trouver des motivations, d'autres vont trouver des éléments de déception. Les uns et les autres vont se dire, tiens, on se projette peut-être déjà vers les élections municipales. Est-ce que je suis en forme ou est-ce que j'ai besoin de reconstituer mes forces? Ça dira en tout cas cela.
Et peut-être des gens qui vont devoir quitter leur poste, Michaël Darmon.
Ça, on verra. En tout cas, les variations de vote de ces derniers jours ne vont pas effectivement rester sans effet. Et on peut s'attendre à quelques séismes politiques dans quelques familles politiques ce soir.
Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous nos correspondants en direct. Merci Édouard Lecerf. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Institut BVA. Michaël Darmon, journaliste politique européen, vous restez avec nous. Et je vais donner la parole dans un instant pour la grande soirée européenne. À Raphaël Duchemin, vous serez avec Sébastien Krebs. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous.
Merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce 10-20. Vous voulez dire quelque chose,
Raphaël ? Je ne suis pas là pour faire du sport ce soir, mais vous retrouverez Lionel Rousseau dès le week-end prochain, évidemment, parce que ce soir, il y avait
une spéciale européenne.
Une spéciale européenne. Voilà. Exactement, Lionel Rousseau sera bien là sur Europe 1 dès le week-end prochain. Et vous aussi, Philippe ?
Oui, et je serai là samedi à 18h, fidèle au poste. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée électorale sur Europe 1.
Ravi de vous retrouver ce soir donc sur Europe 1 pour cette grande soirée. Dans 3 minutes maintenant, les toutes premières estimations, vous allez les découvrir avec nous en direct sur Europe 1 et nous allons aussi les commenter ensemble jusqu'à 23h, soirée élection européenne, c'est sur Europe 1 et ça commence dans quelques minutes.
Européenne 2019, votre soirée électorale sur Europe 1.